cette semaine dans le service après-vente de la F1.
HRT ne sera plus sur les grilles de départ la saison prochaine.
Les drapeaux font parler d'eux après le Grand Prix du Brésil.
La FIA fait de la place au calendrier 2013 pour la Turquie ou l'Autriche.
La saison des transferts se poursuit du côté de Caterham, Sauber et Williams.
Les chroniqueurs et rédacteurs font le bilan de la saison 2012.
En générique, dire sa révérence.
Et Dino tient promesse.
Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission du SAV de la F1, la dernière émission de l'année. Une émission 2.0, une émission exceptionnelle, n'est-ce pas Dino ?
Bah c'est la première émission qu'on réenregistre.
C'est pour ça qu'elle est 2.0.
Voilà. Alors, on avait prévu donc de vous proposer le dernier mag mercredi dernier, sauf que bon, malheureusement, on a voulu essayer vraiment beaucoup de choses dans cette émission, en termes de contenu, mais aussi en termes d'enregistrement. On a voulu faire une sorte de bêta-test de 2013. Voilà, il y avait trop de travail en termes de montage, et en plus, on n'était pas forcément super satisfait du contenu de l'émission. Donc, on s'est dit, on va la refaire. Voilà, et comme ça, on pourra vraiment vous proposer quelque chose de digeste.
Donc, sachez qu'il existe une émission fantôme du SAV qui dure 6 heures. Parce que...
voilà. Une émission école, il faut dire.
Oui, voilà. Et donc, vous les aurez reconnus si nous ne sommes pas seuls.
Non, parce que, comme j'ai dit, c'est une émission exceptionnelle. Hein. Et donc, cette semaine, il y a toi, il y a moi, mais il y a aussi Fab, il y a aussi...
Toi, plus moi, plus...
Grégoire, je t'ai.
Moi, je trouve que l'hymne allemand a une drôle de cogne, hein, mais...
Ah, tu veux l'hymne allemand? Ça me dérange pas, hein. Moi je peux le retrouver vite fait. Hein.
Il y a Gus Gus aussi, et en fait il y a Steph Core, mais il est là mais il n'est pas là, c'est-à-dire qu'en fait il est là mais il y a une semaine, mais il sera peut-être là, enfin... C'est de la soupe interne, vous voyez, c'est ouais. Une espèce de petit rond avec des croutons dedans et des légumes verts, voilà.
Quoi?
Steph Core sera ravi de savoir qu'il est comparé à un crouton.
Ouais, légumes,
Steph Core, si tu nous écoutes.
On avait dit qu'on n'improvisait pas cette semaine.
Hein. Parce qu'il sera là sans être là. Mais peut-être qu'il sera là en étant là.
Le chroniqueur fantôme.
Voilà.
Il est resté dans les deux dimensions.
Dans une double temporalité. Et messieurs, habituellement, c'est une phrase que j'utilise pour les émissions d'après-course, mais je vais l'utiliser cette semaine. C'est bien en plus comme on l'a déjà fait, il y a des trucs que je peux récupérer. Messieurs, qu'avez-vous pensé de ce championnat?
Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Danach lass uns alle streben, brüderlich mit Herz und Hand. Einigkeit und Recht und Freiheit sind den Glückes unterpfand. Blut im Glanze dieses Glückes, Blut des Vaterland, Blut im Glanze dieses Glückes, Blut des Vaterland. C'était trop con de pas le refaire une deuxième fois.
Oui, c'est choisir sûr. Choisir la honte à une recherche de montage, c'est beau.
C'est plus simple en termes de montage. Voilà, je me suis dit, il fallait que je le fasse. Je m'excuse, hein, comme la première fois. Auprès de tout le peuple allemand. Et je tiens à rassurer les Français, j'ai appelé Angela Merkel lundi soir pour la prévenir, et donc l'armée allemande ne sera pas en alerte à partir de mercredi. Je peux vous faire l'hymne italien si
non,
vous
non,
voulez.
Non, ça va, on arrête les conneries quand même, 2 minutes.
Mais tu vois, la Star Academy a repris, et je pense que t'as loupé le coche.
Alors messieurs, cette saison...
Bah, c'est une saison que moi je classerais dans justement dans les inclassables un peu de la F1, un peu comme 82 et 2003. En 2003, ça d'ailleurs c'est comme cette année, ça a suivi une année de domination d'une équipe qui survolait le championnat, et du coup tous les changements réglementaires dont les échappements, les pneus, tout ça, ont fait que on a une saison beaucoup plus serrée, certaine au début, puis les écuries normales repris du poil de la bête, mais donc une saison un peu hybride, quoi, entre incertitude puis un peu plus à sens unique sur la fin.
Ouais, il y a clairement deux parties dans la saison. Enfin, avant la pause, on a eu 7 grands prix, 7 premiers grands prix, 7 vainqueurs, et puis dans la deuxième partie, ça s'est clairement joué entre Alonso et Vettel. Ce qui n'a pas empêché d'avoir un final à suspense et quelques très très belles courses. Mais c'est vrai que la hiérarchie semblait beaucoup plus beaucoup mieux définie par rapport à la première moitié de saison où ça partait un peu dans tous les sens, sans que ce soit forcément pour nous déplaire d'ailleurs.
Ouais, non, mais une saison globalement déroutante, quoi, difficile à lire, quoi, parce que c'est vrai que comme vous le dites, un début assez difficile à lire, avec 7 vainqueurs en 7 grands prix, une hiérarchie bouleversée vraiment dans une grande partie de la grille, et puis une fin de saison plus conventionnelle, on va dire, plus stable, même si à mon sens, il y a quand même eu des écarts de performance assez impressionnants au sein des écuries de pointe. Donc ouais, voilà, une saison instable, une saison déroutante, et personnellement j'arrive pas à savoir si je l'aime ou pas. J'ai aimé le spectacle, après j'ai trouvé peut-être la saison un peu trop un peu too much, quoi, dans le scénario, dans le côté déroutant, quoi.
Bah, ça a été dense quand même, parce que c'est vrai que tu prends le début de saison, il y a eu beaucoup de vainqueurs différents. Malgré tout, on a retrouvé quand même les top teams.
Oui. Hein.
Et surtout longue quand même. Ouais, les 20 grands prix, c'est la plus longue saison qu'on a eue, puisque pour l'instant l'an prochain, hein, on est encore sur 19.
Ah non, il y en aura 20.
Oui, c'est bien
parti. Le calendrier de la FIA donne 20.
Oui, c'est vrai, il y a 20 dates. Pour vous, enfin, ça vous a paru extrêmement long, trop long,
Mais en fait, plus que la longueur de 20 courses, parce que on a déjà eu des saisons à 19, je crois que c'est 2004 et l'année dernière, c'est la fin, en fait. La fin était très intense parce que on a eu, trois fois de suite, deux courses et seulement une semaine de repos. Deux courses d'affilée et une semaine de repos derrière. Donc, en un mois et demi, on a eu 6 courses. Ça, c'était très, très intense.
C'est vrai qu'on a eu une pause d'un mois au mois d'août, donc forcément il a fallu sur la fin de saison concentrer un maximum parce qu'on a quand même fini fin novembre, quoi, donc on pouvait pas faire beaucoup plus concentré, quoi.
Dino, ouais. Peut-être quelque chose à rajouter ou Fab?
Moi je trouve que ça traîne encore en longueur, je sais pas vous. Moi je m'attendais à ce que ça soit fini mardi dernier. Puis finalement on se retrouve un peu plus loin. C'est toujours pas fini. Non, mais c'est vrai que 20 grands prix, au début de saison, tu te dis, ah, chouette. Et puis à la fin de saison, tu te dis, quand c'est que ça s'arrête, quoi, finalement? Parce que, encore, t'as des saisons longues, mais reposantes, parce que il se passe pas grand chose du fait du déroulement du classement. Je pense à l'année dernière, hein. C'est vrai que c'était une saison longue aussi, mais bon, on a assez vite compris.
Ouais, enfin, c'est quand est-ce que ça s'arrête, quand est-ce qu'il s'arrête de gagner, quoi.
Ouais, non, mais d'accord. Il y avait ce côté-là, bien sûr. Mais je veux dire, là, en plus, il y avait la tension nerveuse, quoi, quand même, jusqu'à la fin. Et comme tu dis, ça se rapprochait, quoi, avec les grands prix toutes les semaines là sur la fin, c'était quand même assez nerveusement difficile.
Mais d'ailleurs, moi, je me demande si l'organisation de la saison là, cette première partie finalement assez diluée en facilement 4-5 mois, il y a 10 grands prix, et cette deuxième partie où en 3 mois il y a autant de grands prix, je me demande si ça n'a pas justement contribué à ce côté, à cet aspect de la saison où on a une première partie de saison très disputée, où là les équipes ont la plupart du temps 15 jours, voire 3 semaines entre chaque grand prix pour pouvoir se préparer, pour pouvoir corriger le tir et travailler. Donc là, ça peut-être ça égalise un peu tout le monde, ça met tout le monde sur les mêmes pieds parce que tout le monde peut retravailler sur sa voiture. Et puis une deuxième partie de saison où là, pour certains, les finances commencent à manquer. Et en plus des finances, bah, il n'y a plus le temps parce que la plupart du temps, tu n'as qu'une semaine entre chaque Grand Prix. Tu as des transports à faire, tu es loin de l'Europe et compagnie. Et où là, donc, tu n'as que vraiment les grosses écuries du championnat qui peuvent continuer à développer, faire de la simulation, produire des nouvelles pièces, les faire venir. Et je me demande si vraiment cet aspect-là, avec une fin de saison très dense, n'explique pas aussi ce double visage de la saison.
C'est pas impossible, et ça va continuer en prochain, parce que quand on regarde on est toujours sur la même répartition. En même temps, ça les arrange qu'il y ait une accélération vers la fin, surtout quand c'est disputé d'un point de vue suspense, j'entends.
Ou l'importance de faire la différence au début de saison.
Oui. Mais ça a toujours été le cas.
Oui.
De toute façon, les points gagnés ne sont plus à prendre, hein.
Messieurs, habituellement on fait le quiz dans le mag, mais le quiz est terminé, c'est le chapitre final de ce quiz.
Oui, parce qu'on voulait pas vous mettre une dernière branlée.
Bien sûr.
Rappelle-nous le score, Sudi.
Il est de 26 à 13.
À 25.
C'est en novembre 2013 qu'on comptera les points, monsieur. En 2 novembre 2013.
Bon, monsieur, vous savez ce que ça veut dire, hein. Ça veut dire gage.
Ça veut dire souffrance.
voilà, bon. Malheur. Hein, que de mots nous viennent à la bouche. Donc on doit vous dire qu'ils savent déjà ce qu'est leur gage, puisqu'ils en ont déjà fait un. Mais bon, si on est obligé de leur en faire faire un deuxième, il n'y a pas de raison. Hein. Donc messieurs, votre gage, vous le connaissez, hein, on va vous, ça va être un nini, c'est-à-dire qu'on va vous imposer des mots à ne pas prononcer pendant toute l'émission. Il se trouve qu'on s'était quand même pas mal planté.
Oui. Ils ont été bons aussi, voilà.
Oui, ils ont été bons, mais on avait quand même mal choisi puisqu'on avait, on nous avait proposé les mots 2012 et équipe.
Oui, et puis t'as, et qu'en fait, comme t'as pas réécouté la bande, t'as pas entendu qu'on les avait dit quand même de temps en temps.
Oui, voilà. Ouais. On va retrouver deux mots, Shinji.
Que penses-tu de progrès?
Oh. Je me dis, mais où est-ce qu'il va le chercher? Progrès. Oui, oui, ça peut être intéressant. Oui, progrès. Oui, c'est, finalement, c'est un mot qui me plaît bien.
Non, mais comment veux-tu qu'on fasse une meilleure émission que la dernière fois avec des gages pareils? C'est pas possible. Si on nous met des bâtons dans les roues, comment veux-tu qu'on soit constructif?
Et un deuxième mot, ça serait, le mot saison, ça peut être bien.
Oh, putain.
Non. Oh, putain!
Non, mais moi, je démissionne, hein. C'est plus facile. Ah, non, mais c'est...
Alors, où est mon dictionnaire des synonymes?
Donc, à partir de maintenant, tout de suite, là, dorénavant, vous n'avez plus le droit de mentionner les mots progrès et saison. En sachant que si, bien évidemment, vous prononcez l'un de ces mots, on en rajoutera un troisième.
Bien, dans ce cas-là, puisque le gage est décidé, on va passer aux news.
Et au podium de la...
Oui. Un podium un petit peu changeant cette semaine, parce que c'est une émission particulière, mais on a quand même des actus. Et commençons cette semaine par la non-polémique, puisque finalement il n'y a pas de polémique, puisque il a dépassé sous drapeau vert, hein, c'est ce qu'on nous a dit. Ouais. Donc l'affaire du drapeau jaune, devait-elle...
Qui garde...
Moi je suis comme Bernie, pour moi c'est ridicule, il n'y a pas d'affaire. Hop, suivant.
Donc rappelons quand même que nous avons eu donc le mardi juste après le Grand Prix, des vidéos sont sorties notamment sur des sites espagnols montrant un dépassement de Sébastien Vettel sur Jean-Éric Vergne au quatrième tour du Grand Prix du Brésil, avant une lumière verte sur la gauche au virage numéro 4. Voilà, et après en fait on a appris qu'il y avait eu deux jours après on a appris qu'il y avait eu un drapeau vert qui avait été agité juste avant et donc qui faisait que le dépassement de Vettel était légal.
Oui, c'est quand même pas aussi simple parce que rien que comme ça, si on n'avait pas eu une précision du fait qu'il y a 5 ans Charlie Whiting avait dit que quand il y avait deux signaux équivalents de drapeau vert, un lumineux et un en drapeau normal, c'était le premier qui prévalait. Sans cette précision, il y avait droit de se poser quand même des questions parce que il y a un vide dans les règlements de la FIA, quoi.
Non, il n'y a pas de vide dans le règlement de la FIA. Mais j'ai envie de dire, il y a à la fois un vide dans le règlement, mais aussi un vide dans la communication. Parce que c'est pas normal qu'il faille attendre deux jours et qu'il faille attendre la réaction notamment de Ferrari qui envoie une lettre à la FIA et compagnie pour que on ait une voix qui commente et qui vienne un peu apaiser, ne serait-ce même qu'en disant écoutez, on va regarder, on va vérifier s'il y a des preuves ou ce genre de choses. Il y a strictement rien eu pendant deux jours de la part de la FIA, ce qui a laissé donc le champ libre aux équipes, aux journalistes, aux fans et compagnie, et indirectement qui quand même entache cette fin de saison.
Ouais, mais enfin sur ce plan-là, je te trouve sévère pour le coup, parce que encore une fois, la FIA, elle a pas à réagir à des rumeurs, à des bruits, elle a à réagir à des demandes officielles de la part des équipes. Ce qu'elle a fait, elle a attendu que Ferrari réagisse de manière officielle. Je veux dire, tu peux pas prendre le risque quand tu es une instance sportive de livrer une première impression quand t'as pas tous les éléments du dossier, et pour cause, puisque c'est pas une procédure officielle. Dans une procédure officielle, t'as accès à tous les éléments du dossier, tu creuses sur les points que tu veux, t'as les moyens de creuser. Là, j'imagine que t'as pas les moyens de creuser puisqu'il n'y a pas de requête. Et si tu te livres, tu livres une mauvaise interprétation ou bien même, tu crées un précédent parce que après on va dire, pourquoi la FIA s'est prononcée dans ce cas-là sans ouverture d'une requête officielle alors qu'elle le fera pas dans d'autres cas. Je veux dire, la FIA peut pas prendre ce risque-là. C'est une instance officielle, elle doit agir officiellement et c'est aux écuries elles-mêmes de d'ester en justice devant elle, quoi.
Mais le problème, c'est que la FIA s'est déjà parfois auto-saisie et qu'elle le peut, enfin dans les règlements, elle peut se saisir elle-même sans forcément avoir besoin d'une réclamation d'une équipe. et que là surtout c'est le problème si tu veux, c'est qu'on est dans justement, c'est vrai qu'il y a le risque derrière qu'on demande à la FIA d'intervenir pour tout et pour n'importe quoi dès qu'il y a une rumeur qui apparaît. Là le problème c'est que c'est un problème aussi d'image, c'est un problème de temps et c'est un problème de réactivité par rapport à aujourd'hui un monde qui va beaucoup plus vite où les images sont accessibles très rapidement. Bon, visiblement pas assez rapidement pour qu'il y ait un recours directement après le Grand Prix, mais quand même 2 jours après on avait ces vidéos là. Il s'agissait pas forcément de dire on ouvre une enquête ou on va faire une enquête, mais eux l'un de leurs arguments c'est de dire que de toute façon dans leur esprit ça a jamais été signalé, que c'est parce que donc du coup il y avait pas d'incident à déclarer. Il suffisait juste pour eux de dire voilà, suite aux déclarations de certains médias et compagnie, de dire il n'y a pas d'affaire, un drapeau vert a été ajouté, d'apporter les preuves, vu qu'il y a rien. Enfin à un moment donné c'est aussi là c'est pas trop un processus de décision ou de sanction, mais c'est surtout un processus de communication où il y a strictement pendant 2 jours il y a strictement rien qui est dit. Il y a même pas le fait de dire c'est-à-dire que même la FIA n'a pas été dire on ne peut répondre que s'il y a une décision d'une équipe de porter réclamation, même pas ça. C'est les journaux, les journalistes qui ont été obligés d'apporter cette précision, parce que même dans ce domaine-là la FIA n'a rien commenté pendant 2 jours, c'est silence radio la part de la FIA. Sauf que le problème c'est que ça rebondit, ça nuit à l'image de la FIA, parce que du coup aujourd'hui même s'il y a strictement aucun fondement, il y a des gens qui ont l'impression que la FIA a favorisé Vettel, voilà, que la décision est injuste et compagnie. Donc indirectement tout cet emballement qu'il y a autour et dont on est aussi en partie responsable, hein, mais bon on fait notre travail de journaliste, on relaye aussi des informations et des suspicions, tout ce délai de 2 jours a quand même porté une atteinte qu'ils auraient pu éviter. Et quand on regarde qui aurait pu éviter, en premier lieu c'est eux, il y a que eux qui pouvaient éviter dès le départ que ça prenne une telle ampleur. Voilà.
Ah oui, non, mais c'est pas comme s'il y avait une demande de comment d'éclaircissement sur une interprétation du règlement. Ici il y a clairement un drapeau vert et il est clair qu'on l'a pas vu sur les vidéos à cause de leur machin là, le contour avec les informations qui sont disponibles pour les téléspectateurs. Donc voilà, il y a clairement pas de question d'interprétation. C'est pas comme si on avait jugé par exemple que l'aileron avant de la Red Bull bougeait de manière un peu trop suspecte ou ce genre de choses. Ici c'est clairement dans le règlement, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu. Donc là pour moi je pense que la FIA aurait pu réagir.
Puis même sans les inscriptions sur l'écran, c'est vraiment pas facile à voir à vitesse réelle.
Non, ouais. Même sans ça, mais voilà.
Même au ralenti, c'est très dur à voir. Avec le temps qu'il fait, plus les gouttes de pluie. Messieurs, autre grosse information que l'on a eue, la fin de l'aventure pour HRT.
Peut-être.
Techniquement, c'est vrai que c'est pas tout à fait fini. On sait qu'on peut accepter des écuries en dernier recours comme Super Aguri, etc. Maintenant, les nouvelles sont pas bonnes et c'est Tony Cucarella, je crois, sur Twitter, qui a dit c'était une belle aventure, etc. Tout ça. Donc, il y a pas de repreneur, donc ça paraît très compliqué. Et quand bien même il y aurait un repreneur, il faut que ce soit vraiment quelqu'un de viable, parce que ce serait le troisième ou quatrième propriétaire de l'écurie. Si c'est pour qu'il la revende l'année d'après, ça sert à rien de continuer les frais et de maintenir des espoirs qui n'auraient pas lieu d'être.
Ouais, parce que de toute façon là elle est pas inscrite et il y a pas de déclaration officielle par rapport à ça, donc forcément ça c'est la preuve que les choses ne se passent pas bien et que...
c'est ça en fait, c'est qui ne dit mot consent quoi. Et malheureusement aujourd'hui il y a eu aucun démenti de la part de HRT qui disait non mais on sera là l'année prochaine.
Oui.
C'est tout simplement, c'est peut-être parce qu'il n'y a plus du tout de service de communication, il n'y a plus rien, donc c'est le signe en tout cas que, bon, selon toute vraisemblance, il n'y a plus d'équipe aujourd'hui et il n'y a pas de racheteur potentiel ou quoi que ce soit, quoi. Sinon, il y aurait au moins une communication en disant oui, pour le moment, on n'est pas inscrit, mais on est en attente ou en négociation.
Par contre, il y a un club de boxe qui se serait formé.
Ah oui, ça, au retour du Grand Prix, il y a eu baston à la Cara Magica. En même temps, c'est vrai qu'à Cherté, je vais pas dire qu'ils ont jamais été vraiment F1, mais dès le début, ça sentait un peu le sapin. Je veux dire, normalement, ça aurait dû être Campos Grand Prix, ça a été racheté, c'est devenu HRT. La première année, le châssis était déplorable.
Ils ont quand même fait mieux qu'USF1.
Oui, c'est vrai.
Qui avait dit déjà un an à l'avance, oui, on sera là, on se prépare. Ils ont eu moins de préparation, ils étaient là, eux, quand même.
Oui.
Ouais.
Alors après, ouais, ça, non, pose quand même la, ça pose quand même la question des écuries qui ont été choisies pour être, pour faire partie de la F1. Mmh. Parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup de projets, je me souviens plus exactement les noms, mais des projets qui étaient peut-être un peu plus viables, mais qui politiquement avaient été un peu écartés en raison de la bisbille à l'époque.
Comme ouais, AFT, bah, par exemple.
Ouais, après, je sais plus exactement, mais.
Il y avait pas ART, mais il y avait des trucs comme Lightspeed, je crois.
Des écuries qui auraient pas fait appel à Cosworth, apparemment, et ça a été un peu le point de crispation du problème, quoi.
ProDrive, c'était deux ans avant, non ?
Oui,
mais ProDrive, ils ont essayé plusieurs fois, hein, je pense. Mm. Donc, c'est vrai que c'est difficile d'y voir clair avec eux, mais oui, il y avait Lola, il y avait plein de projets, mais la problématique aussi, c'est que voilà, effectivement, je pense qu'il y a eu des choix politiques avec le moteur Cosworth, mais que Mosley n'a pas réussi à aller au bout de son idée en imposant des budgets un peu plafonnés, parce qu'actuellement, ils ne le sont pas. C'était aussi une des conditions d'entrée quand les trois nouvelles se sont inscrites.
Je pense qu'il y a tout simplement aussi un contexte, une mentalité en Formule 1 qui fait que tout simplement c'est très darwinien, c'est le plus faible meurt et HRT c'est l'écurie la plus faible et elle s'est fait bouffer en trois saisons. Ce qui est quand même un miracle, ils ont quand même tenu trois saisons. C'est quand même il y a des équipes qui étaient en meilleur état de forme financière et puis en termes d'organisation et qui ont duré beaucoup moins longtemps. Donc
ouais, moi ce qui me gêne aussi enfin dans la disparition d'HRT, si en soi l'écurie va pas forcément manquer, mais c'est que ça, c'est une nouvelle preuve qu'il faut absolument faire quelque chose au niveau de la réduction des coûts et que j'ai l'impression que la F1 n'a pas encore compris ça. Quand on voit les dernières mesures qui sont encore prises pour 2013, 2014 et au-delà, on a l'impression que la FIA se concentre uniquement sur le moteur, encore une fois, alors qu'au bout d'un moment, c'est bon quoi.
Ah, puis alors là, vu ce qui a été décidé, c'est vraiment que le moteur. Hein.
Ah, bah oui, mais c'est ça. Alors que voilà, il y a moyen de réduire les coûts de manière. Et cette année, on en a parlé beaucoup.
Ah, on nous a quand même vendu des choses magiques pour 2014, le retour des jupes, le changement des tailles d'ailerons peut-être, des nez qui reviendraient plus bas vraiment comme les autres monoplaces. Au final, 2014, bon bah en gros c'est les mêmes bagnoles mais juste le moteur qui change.
Ouais mais c'est symptomatique de la FIA ça, c'était déjà comme ça sous Mosley, c'était pareil avec Todd.
Mais justement ils ont dit que c'était pour réduire les coûts parce que ça impliquait des nouveaux coûts de recherche dans soufflerie etc. Et donc c'est pour ça qu'ils ont abandonné, mais du coup enfin ça a été contre-productif parce que déjà en septembre Williams disait que la soufflerie il a partagé un tiers 2012, un tiers 2013 et déjà un tiers 2014, c'est-à-dire qu'ils ont déjà une monoplace 2014 avec les ailerons différents etc. qui tournaient et tout ça bah c'est de l'argent dépensé en l'air parce qu'on abandonne un peu à la dernière minute parce que le règlement 2014 il doit être arrêté d'ici le 30 juin. Et vu l'échelle du projet, enfin c'est dans la dernière ligne droite qu'on annule ce genre de choses.
Ouais bah c'est ça, c'est comme si dans cette logique là on peut aussi dire ah bah merde le moteur 2014 ça va coûter trop cher, on le supprime quoi. Ouais mais les équipes
ça a été à deux doigts de le faire.
Ouais mais les équipes principalement les motoristes pardon se sont déjà lancés dans le projet depuis belle lurette, elles ont déjà dépensé de l'argent et pas qu'un peu, donc c'est à nouveau c'est.
Mais le problème, c'est que c'est justement les équipes, généralement, qui sont à l'origine de ces reports. Enfin, ce qui est pas compréhensible, c'est que la FIA, ils avaient décidé de faire autant de changements en une seule année plutôt que de les étaler. Il me semble que c'est ce qu'ils avaient fait au départ. Je pense que le moteur, il devait arriver en 2013, et ensuite, il y avait une nouvelle aérodynamique en 2014, ou c'était l'inverse. L'aérodynamique changeait en 2013, et après 2014, il y avait le nouveau moteur. Et en fait, à cause du report des équipes, il s'est retrouvé que tout s'est court-circuité en 2014, et que à un moment donné, oui, il faut faire des choix, des priorités, quoi.
Il y a certains trucs, regarde le passage électrique dans les stands, on parle de 2016-2017. Hein.
Apparemment, je crois que c'est reporté à 2017.
Mmh. Hein. Ouais. Alors que on va lancer la Formule E. Des monoplaces, enfin des voitures comme celle de Toyota au Mans, je pense qu'elles sont déjà équipées aussi de ce genre de système dans les stands. Bah voilà, la Formule 1 veut se placer comme représentant du sport plus ou moins vert et j'ai l'impression qu'elle prend du retard, quoi. Mmh.
Non, puis là, c'est vrai que le coût de supprimer ça, c'est vraiment du foutage de gueule. Parce que comme tu l'as dit, il y a déjà des systèmes qui existent. Ils auraient pu le faire. Hein. C'est vraiment, encore une fois...
tu me diras, il y a des équipes qui, encore cette année, n'avaient pas le KERS. Et HRT, je pense que pour 2013, c'était pas prévu non plus. Donc bon, ça peut se discuter aussi. Mais bon, voilà, il faut savoir ce qu'on veut. Quoi. Mmh.
Puisqu'on parle justement des prochaines saisons, vous préférez d'abord qu'on parle du calendrier ou des pilotes ?
Parlons du calendrier parce que c'est ce qui a accompagné les modifications techniques dans la réunion de cette semaine.
Puisque il y a eu une légère modification, enfin légère. C'est-à-dire que pour un Grand Prix, qui est le Grand Prix d'Allemagne, a été avancé au 7 juillet, sur un circuit qu'on sait pas encore lequel c'est, mais que bon, normalement, c'est Hockenheim, hein. Parce que Nürburgring, ça va être un petit peu compliqué, hein.
Nürburgring, ça sent un peu l'oignon, ouais.
Voilà. Donc, une semaine avant, hein, donc,
Qu'est-ce que c'est que cette expression?
Oui, j'ai voulu dire sapin, mais voilà.
Oui.
En plus, c'est la période. Oui.
Donc le 7 juillet, hein, le week-end de la Japan Expo. Donc, ça ne sera pas cette année. Donc.
Moi, je vais chez ma grand-mère.
Et bon. C'est surtout le week-end du festival of Speed de Goodwood. Et donc,
oui.
Goodwood est obligé
de se décaler, oui.
De décaler la date. Donc, ce sera sans doute le week-end d'après, le week-end du 14. Mm. Mais voilà, ils sont obligés de décaler la date. Ils ont dû s'excuser. Ils ont dit, bon, voilà, on est le seul événement en dehors de la Formule 1 où on voit des monoplaces récentes et les pilotes.
Voilà.
On peut pas se priver de ça, quoi.
C'est jamais bon de ne pas avoir le choix dans la date.
Mm. Ouais. Mm. Et donc, hein, ce déplacement laisse le créneau, donc, du 21 juillet, qui est officiellement marqué au calendrier de la F1. Voilà, on a l'impression d'avoir un calendrier WTCC ou d'IndyCar, c'est-à-dire, voilà, on vous balance le calendrier, mais bon, il y a des créneaux, voilà, c'est to be announced, hein. Donc, il y a un 10e Grand Prix qui est annoncé pour le 21 juillet, qui est en Europe, mais on sait pas où.
Ah bah, 21 juillet, c'est sur la Lune, non, c'est ça?
C'est bien, Chidu, t'as déjà ton éphéméride.
C'est vrai. Donc,
on va savoir que, apparemment, initialement, c'était prévu pour la Turquie. Il y a même un accord qui avait été signé, enfin, Ecclestone et...
C'était à Istanbul, en plus, là.
Et, ouais, et le propriétaire du circuit d'Istanbul avait trouvé un accord. Bernie, apparemment, avait consenti à baisser, les droits d'entrée. Sauf que, bon, bah, tout dépendait du gouvernement. Et là, le gouvernement turc, ils ont dit, walou!
Bon, la Turquie, ils viennent de perdre l'Euro 2020. Mais il y a un autre challenger pour le 21 juillet.
Le gros surprise von Österreich.
Österreich, voilà. sur l'Österreich Ring, un ring, Spielberg, Zeltweg, Red Bull Ring, tout ça c'est le même circuit.
Ferrari World 2 aussi ça marche.
Mais visiblement, le Red Bull Ring est vraiment candidat. Hein. Il y a Helmut Marko qui a rappelé à la FIA que le circuit était homologué pour la F1. Donc visiblement, vu que là la Turquie, ça sent les oignons. Ouais. Visiblement, l'Autriche est bien décidée apparemment. Enfin, Dietrich Mateschitz est bien décidé.
À part Sauber, ils ont tous leur Grand Prix national.
Non, mais le Grand Prix d'Autriche, il sort pas de nulle part. Hein. Ça fait plusieurs années qu'on en parle de manière plus ou moins avancée, parce que c'est vrai que c'est la base de Red Bull entre guillemets. Puis c'est quand même un Grand Prix.
Où en Autriche est la base de Red Bull?
Voilà. Le monde est la base de Red Bull.
Non, possède l'Autriche. Tu arrives à l'aéroport Red Bull, tu prends la route Red Bull, puis tu prends l'avenue Dieter Mateschitz pour arriver au Red Bull Ring.
Non, puis bon, c'est un circuit voilà qui a déjà l'expérience de la Formule 1, lui aussi. Puis d'un côté purement sportif, c'est un Grand Prix qui était, je m'en souviens plutôt, enfin le circuit en tout cas était plutôt intéressant, si je me souviens bien.
Des grandes lignes droites et des gros virages.
Voilà.
En 2002, super Grand Prix.
J'ai voilà. En 2002, Grand Prix énorme.
Super serré.
Final au couteau.
Alors c'est pour ça que j'ai eu une discussion. Il y a eu des arguments sur on va aller sur le circuit de Red Bull. Rappelons quand même que c'est un circuit qui a été acheté par Red Bull, mais techniquement Red Bull n'y a jamais roulé en conditions de course et que de la même manière, même si Red Bull peut y rouler, les essais sont très peu significatifs parce que c'est pas avec des monoplaces récentes ou alors c'est pas du tout avec des monoplaces. Donc voilà, ça, ils vont connaître le circuit, mais en même temps le circuit tout le monde le connaît. Plus ou moins, enfin, Ferrari, McLaren, Williams, ils étaient déjà là à l'époque, ils le connaissent. Certains pilotes aujourd'hui ont roulé dessus, puisque il a accueilli le Grand Prix de 97 à 2003, donc Alonso, Raikkonen, Weber, tout ça ils connaissent quoi. Donc
de toute façon, je pense que Red Bull n'a pas financé le circuit pour le plaisir. Il n'y a pas beaucoup de compétition automobile dessus à ma connaissance.
Et
donc
DTM,
c'est aussi dans leur intérêt de. Puis un Grand Prix européen quand même.
Ouais. Non, et puis c'est plus légitime, enfin, même si le circuit de Turquie est très beau, mais c'est quand même plus légitime d'aller en Autriche que d'aller en Turquie, et même, je dirais même plus, c'est même plus légitime d'aller en Autriche que d'aller en France, dans la mesure où, l'Autriche a quand même une écurie, il y a quand même un gros investisseur qui a de très longtemps investi beaucoup en Formule 1, qui est le triple champion en titre. Il y a eu des champions autrichiens, des grands pilotes autrichiens. Donc, pour le coup, voilà, c'est vraiment un Grand Prix qui serait complètement légitime au calendrier. calendrier.
Par contre, enfin, je me pose quand même des questions sur la pérennité sur le moyen ou long terme de ce Grand Prix, parce que vu la place qu'il va falloir faire en 2014, à moins d'être à 22 ou 23 Grand Prix, s'il y a un Grand Prix qui doit sauter en 2014, enfin, c'est peut-être le dernier arrivé, quoi. J'ai plutôt l'impression que ça va être un Grand Prix bouche-trou pour 2013 et que il y aura pas vraiment de futur par la suite.
Mais est-ce qu'il n'y a pas, par exemple, la possibilité, parce qu'on sait qu'en 2014 il y aura peut-être aussi la Thaïlande, est-ce que, par exemple, on peut pas imaginer une sorte d'alternance Thaïlande-Autriche une saison sur deux, en sachant que Red Bull est une marque thaïlando-autrichienne?
Le boss thaïlandais là.
Alors, d'un point de vue marketing, c'est vrai que c'est important, parce que il y a la grande bataille des boissons énergisantes qui se prépare en F1 quand même. Donc, oui. Oui, avant c'était la clope, maintenant c'est la taurine.
On va créer une boisson énergisante, les mecs. Avec des phéromones de nous, tu vois.
Oh. Et puis, si possible, on l'appelle pas Burn, quoi.
On l'appellera Red Burn.
La boisson qui t'en donne.
If it gives you burns, ça le fait pas.
La boisson qui a bu Niki Loda en 1976.
Messieurs, pour parler de nouveau de 2013, donc les pilotes, il y a eu quelques officialisations, hein, puisque donc Charles Pic monte d'un créneau, hein, il va chez Caterham, Valtteri Bottas a été officialisé chez Williams, de même que Gutiérrez. Résultat, il reste aujourd'hui 4 places. La deuxième place chez Caterham. Oui, voilà. Officiellement, il y a 4 places qui n'ont pas été officialisées. Il y a en effet, donc, chez Lotus, normalement, c'est Romain Grosjean. Mais en même temps, ça tarde tellement qu'on peut se poser des questions. Il y a la deuxième place chez Caterham. Oui. La deuxième place, donc, chez Caterham, compagnie Charles Pic. La deuxième place chez Force India, qui elle aussi risque d'être beaucoup demandée. Et la deuxième place chez Marussia. On a beaucoup parlé de Chilton. Si en effet son papa a bien acheté la moitié de l'équipe, ça aide.
Je pense que ça...
Il faut aussi intégrer...
L'achat de l'équipe a été démenti.
Ah, ça veut pas dire qu'il viendra pas.
Non, mais pour moi, il reste le bruit chez Marussia, Chilton, mais... C'est vrai que ça tape aussi un peu, finalement, de son côté.
Ouais, la grosse question, c'est Charles Pic, quand même, parce que... On a quand même vu une progression de la part de Marussia qui était assez intéressante.
Oui.
Surtout étant donné leurs moyens techniques et financiers.
Qui n'était pas dû qu'à Charles Pic, d'ailleurs. Faut le
oui.
dire.
Que et il n'est pas le seul voir, facteur. Donc, l'année prochaine. Faudra voir quand même l'année prochaine, voir ce que ça donne, parce que bon, bah, honnêtement, Caterham ne doit sa 10e place en grande partie quand même à Charles Pic. Tu vois, bon, c'est pas retirer le mérite de Petrov qui est opportuniste, mais bon,
c'est ça le budget qu'il a apporté.
Voilà. il apporte 10 millions, ça aide, mais voilà, c'est vrai que ça lui ouvre des portes chez Renault et compagnie, mais je sais pas, c'est un contrat à long terme, il y a peut-être plus de garanties aussi, parce que visiblement il y a toujours pas d'accord entre Marussia et Bernie Ecclestone sur les accords Concorde, donc on sait même pas si Marussia sera là l'an prochain encore.
Ils ont dit que c'était pas obligatoire de signer l'accord Concorde pour rouler en F1.
Oui.
Beau.
Oui. Il y en a qui ont essayé. Ça aide quand même. Mais bon, voilà, moi j'attends quand même de voir, parce que Caterham a quand même été assez décevant cette année et au contraire Marussia c'était plutôt encourageant, donc faudra voir.
Ah, c'est vrai que sur le plan strictement sportif, c'est pas franchement ce qu'on appelle une belle promotion, hein. Il monte sur un tabouret, le garçon, mais...
Surtout quand on a parlé de Sauber ou de Force India un peu plus tôt dans la saison, quoi. Oui. Donc, finalement, échouer chez Caterham, même si c'est un contrat à long terme, tu peux quand même pas t'empêcher de te dire, bon, c'est quand même un peu décevant, quoi.
C'est vrai que cette histoire de contrat sur plusieurs années, c'est un peu surprenant, parce que ça met un peu Kovalainen sur la touche, parce qu'on a toujours vu chez Caterham qu'il y avait un peu Kovalainen, on voulait construire collaborer sur long terme, et que à côté de Pic, on va pas mettre un pilote du même style, on va mettre quelqu'un qui va ramener de l'argent comme le faisait Petrov cette année.
Ouais, enfin Pic ramène quand même de l'argent.
Oui, c'est sûr.
Il y a de la garde,
mais pas assez pour assurer le budget de l'écurie. D'autant plus s'ils finissent pas 10e l'année prochaine.
Non, mais du point de vue, pour reprendre du point de vue de Pic, à mon avis, c'est vrai que c'est pas une promotion, c'est pas la promotion qu'on aurait pu attendre, mais d'une certaine manière, il a fait quand même peut-être le plus dur, c'est-à-dire pérenniser sa présence en F1, quoi.
Ah oui.
Et sur ce plan-là, on peut quand même que le saluer, parce que ça n'a pas été évident pour tout le monde. D'Ambrosio, qui était à sa place l'année dernière, n'a pas eu la même chance, malheureusement. Alors, il peut revenir dans la course, D'Ambrosio, mais on voit bien que ça va être difficile. Donc, Pic a quand même fait le plus dur. Après, à lui de démontrer qu'il a les capacités pour monter en grade, quoi.
messieurs, clôturons cette page des actualités. Bon, normalement, on devrait être peinard sur les actualités pendant un bon mois, hein. Là, c'est bon. On va avoir droit aux articles sur, oui, c'est la fête de Noël avec les employés chez Ferrari. Pour ça, on verra les pilotes Ferrari déguisés en Père Noël. Plein de choses comme ça.
D'ailleurs, il y a une vidéo très marrante de Raikkonen qui essaye d'enregistrer un message de joyeux Noël. Et...
En même temps, ils sont bêtes chez Lotus. Ils font leur arbre de Noël le jour du gala FIA.
Oui, parce que
apparemment, c'est pour ça qu'il a fait une vidéo. C'est parce que l'arbre de Noël, c'était le même jour.
Ah bah une soirée avec Raikkonen, je suis sûr que ça va être très fandard, quoi. Tu vas passer un très bon moment.
Si tu t'en souviens.
Ouais, mais t'invites Button, hein, comme ça lui s'en souvient, il te raconte.
Ou Lewis, il tweet à chaque... Enfin bon.
Alors dis-nous, la suite doit être un petit peu particulière.
Oui, parce que c'est... Oui, effectivement, oui. Bah, oui c'est
heureusement que tu t'en rappelles, hein.
Oui, parce que de ce moment, on va être un peu des feignasses. On va vous, là pour le coup, on va vous faire découvrir un extrait de l'émission Fantôme, puisque on va vous passer nos citations et nos pour pas pour, et vous entendrez pour le coup Steph Core qui était là mardi mais qui ne sera pas là aujourd'hui.
Donc tout de suite, hein, l'extrait de l'émission Fantôme.
Voilà, ça c'est pour ton montage.
Donc, messieurs, je propose de passer aux citations.
Donc, j'ai une citation de Martin W. qui a dit « J'ai vécu de grands moments avec lui. C'est un être humain exceptionnel, un atout de taille pour toutes. » Alors là, la déontologie m'implique de dire que le mot qui va suivre n'est pas le mot qui était dans la citation. « De toute écurie. Alors, je suis déçu de le voir partir. » Il parle, bien sûr, d'un certain Lewis Hamilton.
Ah bon, il s'en va, lui. C'est dommage. Il va où? Remplacer Rosberg.
Choix d'orientation bizarre.
Ouais, l'an prochain, on va avoir des avis de recherche.
Un pilote a disparu.
Faudra appeler le Chuck Norris pour le mettre sur le coup, ça peut être utile.
Ah, qu'est-ce qui va me manquer, Lewis.
Ah, si ça lui permet d'être moins bavard que cette saison.
Tu vas découvrir la 10e place, la 14e en qualification, voilà.
Un monde sans superlatif.
Mais de quoi vous parlez? J'ai toujours été fan de Sergio Pérez, laissez-moi tranquille.
Tiens, c'est quoi cette voiture rouge et noire? Une Marussia? Dis donc, j'avais jamais vu.
Putain les gars, je suis sur la grille du GP2. Il y a des équipes, je sais pas. Mais non, mais c'est là vraiment qu'il va faire exploser son talent.
Et ses pneus.
Et sa carrière.
Non, Mercedes, ils ont promis l'année prochaine. Non, c'est pas Mercedes, c'est McLaren. Oh, dommage. C'est McLaren qui a promis que l'année prochaine, il n'y aurait pas de problème avec les pneus. C'est dommage.
Ben non,
c'est
mais la saison où il part. Mercedes aussi, ils ont dit, bon, allez, l'année prochaine, bon, hein. Allez,
on
hein,
fait une voiture.
L'année prochaine. Allez.
Lewis, fais refroidir tes pneus. Mais attends, je suis pas encore parti.
Ouais, mais il y a du soleil.
Enfin, derrière le nuage, il y a un soleil. Il fait jour, Lewis. Tes pneus brûlent.
Arrête de tweeter.
Mais c'est avec quoi sa première phrase en arrivant? C'est Kiss Rookie. Rosberg, monsieur.
Non,
Rosberg.
Sa première phrase, ça va être oh merde.
Non, mais c'est vrai qu'on va vraiment pouvoir juger Rosberg, c'est Hamilton, c'est bon.
Oui.
Oui.
Pour peu qu'il ait pas droit à la poisse de Schumacher. Oui, c'est... Sinon, ça va pas être facile, hein, mais...
D'autres citations, messieurs?
Oui, moi, j'ai une citation de Sébastien Vettel.
En allemand?
Dans le genre, tiens, je fais une interview en plein milieu d'une polémique. On avait Grosjean qui admirait le premier virage. Et on a Sébastien qui dit, c'est assez drôle de revenir en arrière lorsque les gens disaient que je ne pouvais pas dépasser. Voilà. Et l'interview sort le jour où on l'accuse d'avoir dépassé sous le drapeau jaune. Là, tu dis, voilà, bon, c'est un carton de, voilà. Le planning était timing, fait. Hein. On n'avait pas le choix, c'est sorti ce jour-là. Bon, ben voilà. Mais du coup, c'est drôle, quoi.
Allez, j'ai une citation de Felipe Massa.
Oula.
Prépare-nous avant.
Bon, en plus, c'est une déclaration que tout le monde a lue, je pense. J'ai pleuré comme un bébé car je pensais à quel point cette saison avait été difficile pour moi, désastreuse au début et ensuite très compétitive à la fin. Donc apparemment de ce qu'il semble dire, donc c'est qu'il n'était pas dans les bonnes dispositions psychologiques au début de la saison et que normalement 2013 ça devrait aller. Donc du coup c'est plutôt ça aurait tendance à être très encourageant pour sa prochaine saison, quoi.
Et c'est vrai qu'après la pause Alors tout le monde dit les trois dernières courses de la saison, mais non, Massa était déjà revenu aux affaires.
Oui.
Avant. Après la pause, franchement, il a été performant. Il a été plus que régulièrement dans le top 5. J'ai pas le tableau devant moi, mais
il fait 5e, 4e, 8e, 2e.
Non, mais de toute façon, c'est pas difficile sur les 9 dernières courses de la saison depuis la Belgique. Depuis lui où il dit que voilà, au mois d'août, il a enfin il a arrêté de se mettre la pression, il a repris du plaisir. C'est le 4e pilote qui a marqué le plus de points.
Oui.
Ouais, non, il a pleinement joué son rôle. Il était franchement, on espère le revoir comme ça l'année prochaine, parce que
très admiratif de son Grand Prix du Brésil.
Et le revoir sur le podium avec l'émotion que ça a impliqué pour lui, ça faisait partie des belles images du Grand Prix.
Je trouve. C'est vrai, je préfère la course d'équipe sur la piste où il défend Mordicus. Son équipier, le procédé d'Austin, quoi.
Une autre citation? Moi, je peux donner la mienne?
Bah, sinon, moi, j'en ai une, c'est pas vraiment une citation, c'est le message qui était marqué sur le casque de Michael Schumacher, qui disait, la vie est une affaire de passion, merci d'avoir partagé la mienne. C'est aussi un des événements.
Mais, par contre, ouais, quand même, grosse déception sur le fait que la F1, ça ne sait pas, faire de cérémonie pour sacrer le champion du monde et ne sache pas non plus, sacrer les départ des grands personnages de
la F1. Mais pourtant, les organisateurs avaient dit qu'il y aurait un truc,
c'est frustrant.
Il a fait son tour d'honneur.
Bah bon, si c'est que ça, c'est vrai que c'est un peu pourri.
Limite, et sincèrement, ouais, moi j'aurais vu Schumacher monter sur le podium à la fin et faire une déclaration pour son départ, j'aurais trouvé ça normal.
Non mais la meilleure manière de partir, c'est comme de faire une belle course. C'est ce qu'il avait fait en 2006. Là, il n'avait pas besoin de cérémonie. Et là même cette année, enfin moi je trouve que même finalement ce que je retiens cette année, c'est la passation de pouvoir avec Vettel,
c'est le
dépassement. Voilà, j'ai trouvé les images au pied du podium. Enfin voilà, je pense que c'est peut-être ça qu'on va retenir plus qu'effectivement le truc un peu artificiel qui est le tour de chauffe. Finalement à la limite, voilà, finalement les plus grosses images sont peut-être celles justement qui sont naturelles. On se rappelle tous de Lewis en 2008 qui est titré, qui a le drapeau anglais sur les épaules, qui est dans son stand avec son père. Enfin, il y a une photo qui est sublime de Lewis comme ça, qui est mouillé par la pluie. Est-ce que ça aurait été aussi beau s'il était monté sur le podium avec les cotillons, la musique et le côté un peu artificiel? Moi, je suis pour qu'il y ait une cérémonie, j'aimerais bien, mais c'est vrai qu'en même temps, bon, voilà, finalement, il y a des images parfois qui sont spontanées et qui sont plus fortes.
Moi, j'ai cité une citation de Fernando Alonso. Nous n'avons peut-être pas terminé la saison avec le plus grand nombre de points, mais nous avons gagné beaucoup d'autres choses, comme le respect de tous.
Ça dépend.
Et nous souhaitons aussi la paix dans le monde.
Je suis pas sûr qu'avec le coup d'Austin, ils ont eu gagné beaucoup de respect.
Ouais, oui.
Dans l'absolu.
Oui.
Ils ont gagné le mien, ouais, c'est principal.
Mais comme je peux lire aussi une autre citation de Montezemolo qui déclarait « Si un patron vous dit qu'on a fait le mauvais choix, c'est qu'il vous ment ». C'est dur à dire, mais c'est vrai, quoi. Dans une telle situation, ils ont fait un choix qui était moralement, sportivement, voilà, dans mon rapport à l'éthique, dur à supporter, même ouais, plutôt répréhensible, mais tout autant en tant que patron et responsabilité où les engagements sont énormes, tu te dis ouais, c'est à prendre, quoi. Moi ça m'a fait vraiment ça m'a fait mal.
Pas sûr,
quoi,
que tous les écuries auraient fait pareil dans la même situation.
Ouais, je suis assez d'accord avec cet avis-là.
Dino, tu voulais faire un pour pas pour?
Oui, bah on va faire un peu le, alors ça c'est pas le pour pas pour qu'on fait aux invités, mais c'est comme voilà, faire un peu le point sur les gros actus de la saison, que chacun dise l'actu qui pour laquelle il est pour, et inversement l'actu pour laquelle il n'est pas pour sur l'ensemble de la saison.
Bah, moi c'est une actu, mais c'est une actu alors de tout début de saison, et c'est plus quelque chose qui s'est passé sur toute la saison, puisque c'est le retour de Raikkonen. C'est un des moments forts de la saison.
C'est une actu de 2011.
Non, voilà, c'est son retour fait quand même partie des événements importants de l'année. Et voilà, il termine troisième, il a fait de bonnes courses, il était très régulier, il nous a gratifié de quelques grands moments en piste et en dehors.
Et il y en a une pour qui t'es pas pour?
Moi, c'est toute la même, le pas pour, ce serait la mauvaise foi des fans d'Alonso et de Ferrari par rapport à l'affaire drapeau jaune, qui même après, certains nouveaux, je sais pas une généralité, mais qui même après l'explication de la FIA qui clôt complètement le sujet sont là, ouais, Vettel et Red Bull ont encore triché. Au bout d'un moment, voilà, faut arrêter. Voilà, qui demande de nouveau un éclaircissement comme Ferrari l'a fait, etc. Il n'y a pas de souci parce qu'effectivement, il y a un doute.
Mais maintenant que le sujet est clos, voilà, qu'il passe à autre chose, je veux bien qu'il soit déçu, c'est normal, l'inverse aurait. Ceci dit, Ferrari aurait eu gain de cause, on aurait entendu gueuler l'autre camp, hein, bon. Faut bien remettre les choses en perspective. Mais bon, voilà, maintenant l'histoire est finie.
Moi, j'aurais un pour deux personnes, c'est Kubica d'un côté et Maria Villota, qui aujourd'hui vont bien. Les deux ont encore des séquelles, je crois que encore Maria Villota va passer sur le billard.
Elle est sortie de l'hôpital cette semaine.
Elle est sortie de l'hôpital, voilà. Kubica, on le voit sur des rallyes quand il se plante pas, mais visiblement il a un...
Il va encore subir des opérations, Kubica.
Laissons parler le porte-parole officiel de Kubica, t'écoute, Sefcor.
Il a encore des problèmes de mobilité à partir du coude. Il va subir une opération pour justement améliorer cette mobilité au coude. Mais c'est vrai que j'étais plutôt ravi de voir les résultats qu'il faisait en rallye. Et, maintenant, je l'espère plus en F1, hein, mais je croise les doigts pour peut-être le voir en WRC un jour.
Je pense que ça va être très dur, ça.
Ah, c'est fini. Hein.
Et s'il faisait du rodéo comme Nicolas?
Moi, ce que je trouve quand même...
Il faut qu'un bras pour faire du rodéo, ça va.
L'autre, il faut le tour quand même. T'es.
Mais moi, ce que je trouve un peu cocasse, c'est qu'il refasse ses armes, entre guillemets, dans la catégorie où il s'est quand même pété le poignet, quoi.
Ah oui.
Dans l'absolu, ça prête un peu à sourire, mais c'est vrai que c'est sympa de le revoir quand même. Pouvoir être compétitif dans, même si c'est pas en Formule 1, dans une catégorie.
J'espère que même que pour Villota, on la reverra.
Ça paraît
reverra,
quand même plus compliqué, pouvoir, avec un œil.
C'est que déjà il aurait fallu qu'on la voie vraiment. Enfin, déjà avant, on se demandait quel était son réel niveau, on l'avait jamais vu piloter ou quoi que ce soit.
Elle a fait de la Super League.
Voilà, ça aurait été faux.
Non, mais c'est vrai que je pense qu'elle avait jamais, elle avait pas ça. Elle n'aurait jamais rien fait d'autre que des
essais. Je pense vraiment pour elle, le combat est tout autre.
Mais de toute façon, ça me paraît compliqué de la revoir dans une compétition auto. Hein.
Non, puis de toute façon, visiblement, elle a décidé de s'impliquer dans les campagnes pour la sécurité auprès de la FIA. Donc peut-être d'avoir un rôle plus politique, plus de communication. Ce qu'elle avait déjà avec... faut être honnête, avec Marussia, c'était davantage ça. Oui, c'est une pilote. Oui, elle sait conduire. Oui, faire des essais en ligne droite, ça allait. Mais est-ce que vraiment on l'aurait pu faire plus? Certainement pas. Donc c'était déjà un rôle de VRP qu'elle avait. Donc finalement, elle va poursuivre dans son rôle.
Puis, Williams va mettre Suzy Wolf le vendredi matin dans la voiture l'an prochain.
Et mon pas pour, ça sera pour les droits télé. Parce qu'aujourd'hui, on est début décembre et on sait toujours pas sur quelle chaîne on verra notre Grand Prix d'Australie.
Moi, c'était mon pour, justement. Mon pour, c'était que ça aille sur Canal.
Je suis d'accord avec toi, camarade. Voilà.
Ça dépend. Est-ce que Malbranche n'avait pas l'air de dire que lui sera encore aux commandes l'année prochaine, mais ailleurs?
Ouais, c'est...
Alors c'est très étrange parce que alors c'est que avant d'avoir suivi Moncé qui s'était inscrit sur Twitter juste avant le Brésil, il a commencé à suivre beIN Sport sur Twitter. Voilà, c'est tout, je dis rien de
plus. T'en dis trop ou pas assez là?
Eh bien, je préfère en dire pas plus.
Je pense qu'il c'est déjà décidé.
Oui, c'est exactement ça, c'est déjà fait. Ils sont en train de commencer à s'organiser, ils annonceront quand ils auront tous les détails à dire, on retransmettra telle session sur telle chaîne avec telle personne, etc. quoi.
Ouais, à la limite.
Et sinon, Gus, t'avais un pas pour?
Mon pas pour, c'est la suspension de Romain Grosjean.
Le même.
Et oui, parce que je trouvais que c'était exagéré par rapport à... Enfin, on en a déjà beaucoup parlé, je vais peut-être pas faire une épiloguer de là-dessus, quoi, mais c'est exagéré par rapport au pédigré, si j'ose dire, de Maldonado.
C'est un problème de cohérence, de nouveau. Dans ce cas-là, parce que dans l'absolu, la pénalité, je pense qu'elle a été justifiée. Je suis pas sûr qu'elle ait été forcément très bénéfique, parce que il y en a eu d'autres moins graves après, et que je pense que ça l'a, au lieu de le faire réfléchir, je dis pas que ça l'a pas fait réfléchir, mais je pense que ça l'a fait trop réfléchir.
Ça l'a fait douter,
un peu. Ouais. Et maintenant, c'est vrai que d'autres auraient mérité aussi de se voir certifier, les gars, on arrête de déconner. Et que ça n'a pas forcément été le cas, mais bon. Et c'est vrai que le Grosjean a eu, je pense que ce qui a joué aussi, c'est clairement l'accident est impressionnant.
Non, mais c'est sûr. Puis surtout, j'ai précisé en commentaire sur une news qui parlait de Grosjean, justement. C'était quand même c'était sa toute première sanction. Il avait même pas eu de réprimande.
Alors qu'il aurait pu avoir quelques avertissements.
Ouais, puis bon, mais moi je trouve que c'est tout un environnement, parce que après, tout le monde s'est un peu jeté sur Grosjean de manière vraiment, j'ai trouvé infecte parfois, parce que c'est un peu facile de tout rejeter sur la faute du mec, qui justement fait partie des gars qui ont une top, qui sont dans une top team, et qui finalement se retrouvent au milieu du jeu de quilles. Bon, j'ai trouvé ça un peu... Puis de la manière dont certains ont surfé dessus, je pense à Weber surtout, par exemple.
Mais je pense qu'aussi Grosjean, Lotus est aussi un peu responsable dans sa fin de saison, parce que sincèrement, je pense qu'il va être renouvelé. Il y a quasiment pas de suspense, il va peut-être avoir une période entre guillemets d'essai, Mais pour moi, il va être renouvelé. Il y a 99%, enfin 99% de chances qu'il le soit.
On en reparlera, je pense, mais il y a tout un environnement qui est de la faute un peu de tout le monde, hein, d'ailleurs même la première de Grosjean, hein, mais bon, on en reparlera.
Ce qu'il y a aussi, c'est que on a l'impression quand même qu'il a aussi, même si ça gamberge, c'est indéniable que ça gamberge, on a l'impression qu'il a aussi un peu de mal à se remettre en question. J'ai quand même,
moi je suis plutôt
sur le coup de la Rosa, on l'a encore vu déclarer tout et son contraire. Une fois, alors sa première déclaration c'est je crois qu'il m'a pas vu, et la deuxième c'est je pensais qu'il m'avait laissé la place. Alors si t'as laissé la place, c'est qui t'a vu? Et quand tu revois les images, c'est quand même le seul qui a vu de la Rosa lui laisser de la place, parce qu'il est dans sa trajectoire, on ne peut plus sur la trajectoire. Alors, bon, de nouveau, t'as l'impression que le gars, c'est pas ma faute. C'est un peu ça qui me gêne aussi par rapport à Grosjean. Mais bon, voilà, après le gars a du talent, y a pas de souci. Faut juste qu'il apprenne un peu à se canaliser.
Fab, c'était quoi ton autre choix d'actu?
Alors mon pauvre, moi c'est les nez d'ornithorynque. Oh. Ouais, finalement, moi j'aimais bien à la fin. Je trouvais que ça leur donnait un petit cachet. Hein? voilà.
Dino, ton pour pas pour?
Bah moi j'ai un gros pour, mais vraiment c'est le gros pour de l'année, pour le départ de Lewis Hamilton de chez McLaren vers Mercedes. Ça le sort de la routine, ça nous sort nous aussi de la routine, voilà, ça va être un feuilleton à suivre l'année prochaine. L'année prochaine va être pour moi sincèrement extrêmement intéressante parce que il y a des enjeux un peu partout, il y a Lewis Hamilton, mais il y a Kimi Räikkönen, qu'est-ce qui va se passer, Grosjean, est-ce qu'il va apprendre, Button sera-t-il un leader, Perez peut-il remplacer Hamilton, Massa va-t-il poursuivre sur sa lignée, l'opposition Vettel, Alonso va-t-elle connaître un nouveau chapitre, enfin, voilà, il y a vraiment plein de trucs passionnants pour l'année prochaine. Donc vraiment moi je souhaite pas parce qu'il va il va décliner en termes de résultats l'année prochaine, mais je le souhaite parce que je suis convaincu que c'est quelque chose qui va le rendre encore plus fort et que c'est peut-être ce qui manque encore aujourd'hui pour en faire avec Alonso et avec Vettel, et encore Vettel j'hésite, mais avec Alonso le pilote le plus complet de la F1. Et le pas pour, je ne suis pas pour les drapeaux verts, hein, les flashs verts. Non, ouais, si j'avais un pas pour, ce serait pour Toro Rosso en fait. Je suis pas pour Toro Rosso. Parce que justement, on le voit un peu à la lumière. Il y a quand même un statut bizarre entre ces deux équipes où il y a vraiment, là, pour le coup, il y a vraiment rien. Enfin, c'est pas des coéquipiers, mais en même temps, ils cèdent parce qu'on sait très bien qu'il y a des hiérarchies et compagnie. Donc, là, vraiment, pour le coup, voilà, moi, autant en interne, dans une équipe, ça fait partie d'une stratégie d'équipe, ça me dérange pas. Autant là, techniquement, c'est quand même deux structures indépendantes, sauf qu'on voit bien qu'il y en a une qui est dépendante de l'autre. Voilà.
Et enfin, Steph Corr?
Moi, le pas pour, ouais, c'est un truc qui m'a gonflé toute l'année, c'est ce foutu Grand Prix de France, quoi. Toutes les semaines, on
mais
est droit à cette foutue
polémique.
Il se fera pas. On sait pas. Le dossier est en cours. Non, mais je suis pas pour cette foutue polémique. C'est cette relance chaque semaine. C'était, mais d'un pénible. Ça m'a gonflé toute l'année.
Mais du coup, il existe le Grand Prix de France 2013. À un moment donné, voilà, c'est à un moment donné, il existe. Il existera jamais. Personne n'en parlera. Mais il y a quand même toute une actu autour du Grand Prix de France 2013 qui fait que, voilà, tu dis, il y a quelque chose qui existe. Mais non, il y a rien.
Ah ouais, virtuellement il existe, mais non, mais c'était ouais toute une chasse aux annonces toute l'année, et c'était d'un pénible, ça m'a vraiment gonflé pour qu'au final voilà c'était juste un ballon de baudruche et tout a crevé, on n'aura rien.
Et sinon, Steph Corr?
En pour, limite, je dirais, c'est le nombre de grands prix, parce que ça m'a permis, grâce à ce fait-là, avoir plus de SAV. Vous ferez pas votre pub vous-même, mais sincèrement, ça a été vraiment de bons moments. Malheureusement, ouais, j'étais obligé de quitter l'aventure, mais sincèrement, vous avez fait un super boulot, hein, autant vous le dire. Je pense que dans les commentaires, c'est pareil, vous avez le retour, mais sincèrement, vous avez assuré les mecs. Hein. Que ce soit aussi bien sur le site. Pour ma part, voilà, je suis pas rédacteur et j'ai la joie justement de pouvoir vous lire. Et non, vous avez fait un super boulot, que ce soit sur la rédaction. Et j'espère que l'année prochaine, vous ferez aussi bien.
Mais en plus, on est le site numéro 1 pro Ferrari.
C'est un honneur.
Quand même, il faudrait pas mettre F1 direct quand même.
Tu te rends compte? Oui, concurrence F1.
C'est F1 direct, là, quand même, on a fait fort.
Mais par contre, je me pose une question. Vous allez le dire quand vous allez signer chez Canal ou Direct 8? Non, c'est... Faut rien dire.
Non, mais sincèrement, on n'osait pas vous le dire, mais en fait, si pour le moment, Canal Plus n'a rien officialisé...
On finalise les contrats. Moi, je veux ma piscine à M&M's.
Ouais. Nous, on veut le même salaire que Michel Denisot, quoi, tu vois.
Michel Denisot, le boulot qu'il fait, c'est tout de suite la méthode.
Ah, tu le fais bien.
Voilà.
Non mais attends, Ben, tu parles de vos salaires. C'est ça, faut qu'on en parle avec les mecs de Canal, Shinji. C'est vrai qu'on, enfin, on oublie, mais on n'est pas que deux. Merde.
Vous voulez pas des mecs?
Ah là, ça va encore prendre du temps.
Passons à la suite, messieurs, et passons à la nouveauté, enfin l'exceptionnel, ce qui fait que ce mag est exceptionnel.
Oui, faisons ce pourquoi depuis le début. Ça fait 2 heures qu'on papote, mais...
Et donc, de retour en direct différé du direct de... Enfin, voilà.
De la version 2, hein, voilà. Donc, sans Steffcore. Et d'ailleurs, on a une pensée pour la Freebox de Steffcore.
Elle a free, il a tout compris.
Mais si on va revenir sur 2 sondages, hein. Alors d'abord, le sondage de l'émission d'avant, alors pas l'émission fantôme, hein, l'émission après Grand Prix, hein, le fait marquant du Brésil. Vous avez été 118 à voter, hein. Et encore une fois, bah, quand il y a Kimi, voilà, il n'y a pas photo. Puisqu'avec 21 votes, Schumacher, Vettel, la passion du pouvoir, n'a réuni que 17,8% des voix. Hülkenberg, si près d'être le 9e vainqueur, 25 votes. Et donc, Kimi, 72 votes. Mais il vous jure que c'était ouvert en 2001, 61,02%. Et c'était même ouvert en 2011, c'est ça?
Parce que je crois que c'est...
Hein, Gus Gus, il a retrouvé sur Twitter, il a mis un truc. Le passage était ouvert l'an dernier.
C'est vrai. Vous irez voir sur Google Street View, parce que tout le circuit d'Interlagos a été scanné par Google, et effectivement, l'échappatoire. D'ailleurs, la voiture de Google est passée dans l'échappatoire, donc c'est vrai que c'était ouvert.
Ouais, mais oui. S'il faisait les reconnaissances le jeudi, il l'aurait vu que c'était fermé.
Voilà.
Et donc, souvenez-vous, ce magnifique sondage lors du dernier mag, hein, ce craquage de slip, hein, vous avez été 89 quand même à voter, hein.
T'as vraiment un truc avec les slips.
Mais
c'est une obsession, tu vois.
Je sais pas. Donc, vous avez été 89 à voter. Vous avez été une personne à souhaiter le retour en 2013 de Max Mosley, n'est-ce pas, Dino?
C'est moche. <Pas long. rire>
Oui, parce que je trouve qu'on se fait chier avec Jean Todt et qu'on s'amusait plus avec Max Mosley. Il y avait plus de polémiques, il y avait plus de... Voilà. Et puis, depuis que j'ai découvert la langue allemande, je me sens proche de Max Mosley. Voilà.
Et puis, il faut prendre un peu de hauteur. Alors, je fais le texte, Jean Todt, il est tout petit.
Mais vous avez compris.
Ah non, moi, j'avais pas compris.
Vous avez
été... Je de ce pirate Steph Court, t'as de la chance. Ouais. Merci.
Vous avez été 2 à souhaiter le retour de Fantomas.
Pourquoi pas, hein.
Vous avez été 3 à souhaiter le retour de Bâton en 2013.
Ouais, et je confirme mon vote.
Vous avez été 6 à souhaiter le retour de Rubens Barrichello, qui était dans le paddock au Brésil,
et
chez Ferrari et aux États-Unis.
C'est pour se rappeler le bon temps. En plus, le retour de l'Autriche, ça doit lui faire plaisir.
Non, mais vous avez été 7 à souhaiter le retour des dinosaures en 2013.
Oui, oui. Et je confirme mon vote aussi.
Hein. C'est peut-être ça qui va se passer le 21 décembre, hein. On sait jamais. Hein. C'est peut-être le retour des dinosaures.
On n'a jamais été aussi près du 21 décembre.
Ouais. Oui. Et tu sais quoi, demain on sera encore plus près, et après-demain on sera encore un petit peu plus près.
Mais non, mais Shuji, même là au moment où on parle, au moment où les gens nous écoutent, on est plus près encore que ce qu'on était au moment où on parle.
Tout à fait.
C'est dingue.
Vous avez aussi été 7 à souhaiter le retour de Walker Texas Ranger.
Sacré cordel.
Il a retenu.
On ne sait pas d'ailleurs si au Grand Prix il a arrêté des Mexicains ou pas, parce qu'il y avait beaucoup de Mexicains. Hein. C'est quand même une belle occasion de faire une descente.
C'est pour ça que Sergio Pérez est tendu, en fait, depuis.
Il se méfie des étrangers, hein, il nous l'a dit, hein. Tu te souviens, Dino, hein, tu nous avais expliqué les paroles. Vous avez été 8 à souhaiter le retour de Nico Rosberg.
Donc vous êtes 8 à être d'accord sur le fait qu'il est parti.
Voilà. En même temps, c'est pas gagné, hein, vu, voilà. Il avait Schumi, il a Hamilton,
Oui, bah, il avait Schumi, on disait qu'il allait se faire défoncer, puis en fait, non, alors Hamilton, il y a de l'espoir. Oh,
qui a dit qu'il allait se faire défoncer?
Vous avez été 13 à souhaiter le retour de Flavio Briatore. Là, vous êtes des malades, quand même, hein.
Je me joins à eux.
Max Mosley, Briatore, voilà.
Le retour de la F1.
Qui nous fait rire aujourd'hui, maintenant, à part Abit Boul, mais encore, c'est à cause de son nom. Il y a personne qui nous fait rire en Formule 1.
Huit marches, quand même. On se paye de bonnes tranches de rigolade avec lui.
Vous avez été 19 à souhaiter le retour de Juan Pablo Montoya s'il rentre encore dans une F1, même avec du bain. Ah, pourquoi pas?
Oh. Ouais, pourquoi? Il est très bien dans ce qu'il fait en ce moment, je crois. C'est très reposant pour lui, je pense.
Et donc, 23, vous souhaitez le retour du Jedi en 2013. Alors, ça sera pas en 2013, ça sera en plutôt 2014, 2015, puis encore en 2015, puis en 2016, puis deux fois en 2016, puis en 2017. Puisque, bien évidemment, des films Star Wars, c'est pas ce qui va manquer à l'avenir.
Ouais.
Donc voilà, c'était tout pour les sondages de la semaine. Et émission exceptionnelle, rubrique exceptionnelle, Dino.
Le répondeur, ah non. Non, bah non. On a reçu des questions pour répondre, mais c'est des questions auxquelles on pourra répondre à la rentrée au mois de février. Donc, et donc on vous propose d'organiser le conseil de classe du SAV de la F1. C'est-à-dire que nous, comme on a la chance cette année de faire toutes les émissions, y compris les SAV d'après Grand Prix, on donne régulièrement notre opinion sur les performances de chacun. Mais finalement, vous, chers chroniqueurs, vous n'avez pas trop l'occasion de vous prononcer sur les performances des écuries et des pilotes. De la même manière pour les rédacteurs, hein, qui, sauf parfois dans leurs chroniques, peuvent le faire, mais globalement ne peuvent pas le faire systématiquement après chaque Grand Prix. Nous avons donc décidé en cette fin de saison de vous donner la parole, de vous promouvoir au rôle de professeur. Et là, c'est pas n'importe quoi, quand même. Avec des matières un peu loufoques. Mais bon, on va pas trop s'attarder sur les matières, sinon ça va être un bordel.
Sorbidier.
Et donc, on a
il
demandé...
Il était beau, quand même, ce lycée Franklin Corse.
Donc, messieurs, on vous a demandé à chacun de noter les écuries sur un barème précis. C'est-à-dire que vous notiez l'équipe sur 8 points. Et chaque pilote était noté sur 6 points. 6 plus 6 plus 8 égale 20. Le compte est bon. Voilà, ce qui nous fait donc une note sur 20, en sachant qu'on vous a dit que vous pouviez utiliser les décimales, hein, pour un peu que ce soit réaliste, oui. Et que ça ressemble à un vrai bulletin de notes. Voilà. Et donc, on a pris vos notes à vous, 4. Ouais, vous 4, vous êtes 4, donc oui, vous 4, plus 5 des rédacteurs les plus actifs sur le site de FanF1. Pour les citer, Romain, l'administrateur du site, Clément, un des rédacteurs, Axel, l'auteur de la chronique hors piste. Clément, j'ai déjà cité Mathieu, rédacteur pour FanF1 et également partenaire via le site businessf1.fr. Et enfin, Quentin de la chronique Retour de Volant. Voilà, qui comme vous se sont livrés à l'exercice de la note de la saison 2012. Voilà, au total on a fait une moyenne et on vous propose, messieurs, de revenir équipe par équipe sur les prestations de chacune en allant de la plus mauvaise moyenne à la meilleure moyenne.
Ça m'a l'air cadré comme histoire.
Donc, on va juste rappeler que les personnes présentes, donc nous avons le professeur de Belge Langue Vivante 1, qui est Benoît.
Ouais.
Nous avons le professeur de Sciences et Technologies, bien évidemment, qui est Gus Gus.
Bonjour.
Le professeur de Sciences Économiques et Sociales, qui n'est pas là, c'est Steph Corr. On pourrait aussi dire qu'il est un peu professeur des communications.
Vu son âge, c'est le professeur des PTT.
De la TS.
Et enfin, nous avons le professeur de latin et d'onomastique.
Ah oui.
Donc voilà, en notant quand même que tout ce qu'on va dire là, vous retrouverez les bulletins complets qui seront joints à l'article du SAV. Donc voilà, vous pourrez découvrir en profondeur les bulletins, les notes et compagnie dans le détail. Et donc, messieurs, je vous propose de commencer par l'équipe la moins bien notée, le dernier de la classe, le cancre de la saison 2012. Là, je vous laisse deviner l'identité.
Red Bull.
Non.
Mercedes.
La reine. Pas loin.
Ferrari. Pas
loin. Non, c'est HRT, avec une moyenne de 6,71. La meilleure note a été donnée par Fabien, par Fab, 9,5. La plus mauvaise par Steph Corr, 2.
C'est la plus mauvaise moyenne d'ailleurs de tout le tableau.
Oui.
2.
Et donc bon, quelques petites informations quand même sur HRT. Au classement du SAV, ils ont marqué 2 points cette saison. Rappelez-vous, c'était le Grand Prix d'Europe. Neeran Kartikeyan avait été classé en 9e position.
C'était mérité.
Au classement officiel. Classement officiel, par contre, l'écurie a marqué 0 points. Est-ce que vous savez quelle est la meilleure position de Neeran Kartikeyan cette saison?
14e.
18e.
Non, il a été 15e à Monaco.
Oh.
Et Pedro de la Rosa a été 17e à 4 reprises en Europe, à Singapour, à Abu Dhabi et au Brésil.
Ah ouais.
Donc voilà, des commentaires Shinji de la part de nos rédacteurs.
Pour Romain, malgré des efforts, Monsieur HRT, oui parce que eux ils sont dans le délire. Normalement nous aussi, mais bon.
On y était, mais en fait c'est pas du tout radiophonique en
voilà.
Fait. C'est juste à lourd.
Tu auras juste les commentaires qui sont dans le délire. Malgré des efforts, Monsieur HRT n'a pas eu le déclic souhaité. Il faut envisager le redoublement, reculer pour mieux sauter. Point d'interrogation. Pour Mathieu, alors Mathieu, je suis désolé Mathieu, je peux pas les mettre en entier parce que enfin tu n'as pas eu les mêmes professeurs que nous. nous, hein. C'est-à-dire que nous, les appréciations qu'on a sur nos bulletins, elles font 3 lignes, hein. Elles font pas 4 pages, hein. Donc, hein. Mais Mathieu, donc, a dit, l'élève HRT a fait ce qu'elle pouvait avec ses moyens très limités. Elle n'a pas démérité en essayant de mettre en place des choses dignes de ce niveau. Nouveaux locaux, par exemple. Néanmoins, cela n'est pas suffisant à ce niveau et nous sommes donc au regret d'annoncer que nous ne pouvons la garder dans notre lycée qui prône l'excellence de tous ses participants.
Alors j'ai le commentaire du délégué de classe Adelin qui nous a envoyé un truc équipe par équipe et qui nous dit à propos d'HRT un peu nulle part cette saison, en dessous de 107% à Melbourne, n'est jamais devant les autres écuries à la régulière, rien à dire de plus.
Oh, c'est clairement la dernière du classement, hein. C'est logique. Marussia a progressé constamment, alors que début de l'année, elle n'était pas l'écart avec Caterham était quand même encore assez important. Elle s'est rapprochée, HRT, voilà quoi.
Et toi, tu lui as mis une moyenne de 9.
Non, mais le plus gros reproche finalement qu'on pourrait faire à HRT, c'est que des petites écuries comme ça, leur rôle, en guillemets, c'est de mettre le pied à l'étrier des jeunes pilotes. Et HRT, sur ses 3 ans, on ne sait pas vraiment ce qu'elle a fait, quoi. Ouais. Hormis Ricciardo, il n'y a pas eu grand monde comme jeune prometteur dans cette équipe, quoi.
Senna?
Prometteur, on a dit.
Mais c'est ça un peu le problème de HRT, c'est qu'ils ont voulu en même temps c'est louable, mais c'est aussi il y a quelque chose où on a l'impression que eux-mêmes n'étaient pas conscients de leur situation. Tu prends Pedro de la Rosa, c'est un pilote expérimenté, c'est un pilote, enfin il y a rien à dire sur de la Rosa, enfin c'est tout le monde est conscient de son bagage technique, de ce qu'il peut apporter et compagnie, mais est-ce que c'est vraiment le pilote dont ils avaient besoin, notamment financièrement parlant, parce qu'il a un coût quand même ce pilote-là, même s'il n'était pas payé très cher, il a quand même un coût, et surtout que est-ce que t'as vraiment besoin d'un pilote qui va t'offrir une grande réponse technique quand t'es pas capable financièrement d'apporter des nouveautés régulièrement, ouais. Ou enfin voilà.
Bah après le choix de De La Rosa, on peut peut-être le voir comme on disait précédemment sur le fait de vouloir créer une identité espagnole pour le coup avec des locaux qui étaient justement tout neuf.
Alonso.
Mais ouais, ah oui, mais il voulait au départ.
Franchement, avec Alonso, il marque des points. Obligé.
C'est sûr. Non mais. Après, bah que dire, en même temps, c'est un peu la même chose depuis 3 ans, quoi. On peut pas. Moi, j'ai pas voulu les assassiner dans ma notation parce que justement, que leur reprocher. Ils sont là, ils se qualifient pratiquement à toutes les courses. Bon, évidemment, toujours pareil, quoi. Quand tu fais pas d'essai de pré-saison, t'arrives avec un truc déjà pas très bon, qui en plus pas dégrossi. Donc de toute façon, au départ, ça va être difficile de se qualifier, mais après, ils s'en sortent pas trop mal.
Il y a que Brawl qui peut faire ça.
Voilà, exactement. Et encore, ils ont eu des essais, il semble.
Oui, ils avaient fait une semaine d'essai, ouais.
Petite mention spéciale quand même pour De La Rosa. J'ai trouvé une bonne saison, globalement. De toute façon, De La Rosa, c'est un bon pilote, hein. Voilà, c'est pas extraordinaire, mais c'est un bon pilote qui fait sérieusement son boulot. Voilà.
C'est vrai que sur un HRT, il n'y a pas grand chose à leur reprocher. Voilà. Ils ont presque du mérite d'avoir été présents pendant 3 ans. Parce que c'est vrai que chaque année, la situation était la même, quoi. On sentait bien à Melbourne.
Ils n'étaient pas très stables. Déjà, quand tu dois changer de propriétaire avant même de poser une roue sur un circuit, c'est quand même étrange, quoi. C'est-à-dire que le dossier qui était déposé au tout départ était vraiment pas du tout viable.
Ah, mais c'est
donc
ça.
C'est un peu la logique que ce soit les premiers à partir. Et franchement, 3 ans, enfin.
Ouais.
C'était peut-être assez incroyable qu'ils aient tenu autant de temps avec si peu de moyens.
C'est sur le site HRT, il y a encore. Déjà, il est encore actif. Comme si actif. Rien n'était.
Avec des guillemets. Hein.
Voilà. Ah, non, mais il n'y a rien, quoi. C'est-à-dire que c'est. Voilà, il y a les reviews du dernier Grand Prix.
Bah, jusqu'à ce que même... le nom de domaine tombe en rade.
Voilà, jusqu'à ce qu'il tombe en rade. Et même les annonces d'emploi pour HRT.
Jusqu'à il y a 2 ou 3 ans, il y avait encore le premier site internet d'une écurie de Formule 1, c'était en 95, c'était Pacific, qui avait son site web à l'époque.
Mais si on vous propose de passer à l'écurie suivante, avec une moyenne de 9,80, une note la plus basse de 6 et une note la plus haute de 11,6, c'est Caterham. Alors Caterham, petit historique de l'écurie cette saison, donc moyenne de 9,80. Au classement du SAV, ils ont marqué 0 points, et Kekkonen et Vitaly Petrov sont rentrés bredouille à chaque fois. Au classement officiel, ils ont marqué 0 points. La meilleure place de Kekkonen est une 13e place à Abu Dhabi et à Monaco. La meilleure place de Vitaly Petrov, c'est la dernière place de Vitaly Petrov, la 11e place au Brésil, qui leur a permis de sauver la 10e place au classement constructeur et donc de s'arroger un petit pactole aux dépens de Marussia. Shinji, des commentaires de nos rédacteurs.
Oui, alors pour Axel, l'équipe ne semble pas vraiment évoluer malgré la bonne volonté des pilotes, et qui semble démotivé, et Vitaly remporte tout de même des bons points malgré quelques difficultés, peut certainement mieux faire. Quant à Quentin, lui, qui a donné une petite appréciation en fait pour chaque pilote, Kovalainen est sur la sellette et Petrov, lui, est carrément au fond du gouffre.
Ah, c'est vrai que Caterham, c'est la déception de l'année. Enfin, dans les petites écuries, c'est un peu une déception parce qu'on n'a pas l'impression qu'elle évolue.
Oui, on n'a pas eu l'impression qu'elle
évolue
au même niveau cette année.
Ouais. Déjà l'an dernier, il fallait qu'ils marquent leur premier point. Cette année, bah, on espérait logiquement qu'on pourrait éventuellement y arriver. Ici, ils ont même failli perdre la 10e place. Maintenant, Kovalainen, voilà, c'est un peu le problème de toujours être dans une voiture qui permet pas forcément de montrer des choses. Glock est un peu dans la même situation.
Ouais, exactement.
Petrov, il fait pas une mauvaise saison. Petrov, en plus, faut quand même se rappeler qu'il monte dans la voiture assez tard, puisque les premiers essais, c'est Trulli qui les fait. Donc, ça montre bien que le deal a été conclu assez tard avant le début du championnat. Donc voilà, c'est oui, elle évolue pas. C'est pour ça qu'on dit que Charles Pic l'année prochaine, c'est pas en soi une vraie promotion en termes de performance d'après ce qu'on a vu jusqu'à présent. Quoi. Non, on espère évidemment aussi bien pour Pic que pour la Formule en général que Caterham puisse se mêler à la lutte pour les points de temps en temps. Quoi.
Ouais, parce qu'effectivement cette année il n'y a pas eu de progression. Hein, notez bien. en fait, surtout le truc qui étonne, c'est que ils ont à chaque année depuis 2010 10 millions de plus que les autres pour faire plus de développement, etc. Et que malgré ça, Marussia, une fois l'approche 100% CFD mise au placard, réussit à commencer à grignoter, voire à dépasser Caterham. C'est ça qui est vraiment décevant.
Ouais, surtout qu'en plus ils ont quand même investi dans l'argent dans de bonnes choses, enfin dans le moteur Renault, dans le Kers, enfin ils ont quand même des avantages, ils arrivent quand même à être concurrencés et à devoir sauver leur place sur le fil par rapport à une équipe qui a un Cosworth et qui a pas de Kers,
ouais,
quoi.
Ouais. Ouais, mais c'est une équipe éteinte en fait, Caterham. T'as l'impression que au fil de la saison, vu même assez rapidement la saison, elle s'est éteinte, et puis comme le disait Ben tout à l'heure en faisant une comparaison avec
c'est la communication qui s'est éteinte.
Ouais, surtout. Ça, c'est clair, la communication. Mais Ben faisait une comparaison intéressante entre Kovalainen et Glock. C'est-à-dire que là, c'est pareil, c'est des pilotes éteints, quoi. C'est des mecs, à force de rouler, c'est malheureux, mais à force de rouler dans des voitures où il y a assez peu d'enjeux, finalement, au final, parce que tu te dis au début, effectivement, t'as l'enjeu de la progression des équipes. Mais après, au bout d'un moment, au bout de trois saisons, ça fait quand même beaucoup de temps passé à l'arrière du peloton. Kovalainen et Glock, c'est quand même des mecs qui, respectivement, bon, toute proportion gardée, t'es quand même des mecs qui étaient plutôt habitués à courir dans la première moitié du peloton. Voilà, même moi j'étais assez personnellement déçu de Kovalainen, quoi. Surtout en fin de saison, je l'ai trouvé là pour le coup vraiment inexistant, quoi. C'est pas que Petrov a été bien meilleur, mais je veux dire, pour le coup, t'attends plus de Kovalainen. Bon, il avait peut-être aussi d'autres choses à penser, effectivement, mais bon, c'est un peu pareil pour tout le monde. Je sais pas, Caterham, c'est vraiment comme le disait Ben, quoi. C'est vraiment la déception parmi le championnat des trois derniers. C'est vraiment la déception pour moi.
Et donc, l'écurie suivante avec une moyenne de 10,32.
Enfin la moyenne.
Une note minimale de 7. C'est même pas la moyenne de la classe, parce que la moyenne de la classe, elle est fixée à 12,5. Une note minimale de 7 et maximale de 12,1. Donc même la note maximale est même pas sous la moyenne. C'est, messieurs,
Toro Rosso.
Bravo, Toro Rosso avec une moyenne donc de 10,32. Toro Rosso qui a inscrit 42 points au classement du SAV, 39 points pour Jean-Éric Vergne qui a été 5e en Malaisie et en Corée du Sud, et 3 points pour Daniel Ricciardo qui a été 9e en Corée du Sud. J'ai honte, Daniel. I am ashamed, Daniel. Et au classement officiel, l'écurie, contrairement à ce que j'ai écrit, n'a pas marqué 0 points, mais 26 points, à ma connaissance. Oui, c'est ça. 16 points pour Jean-Éric Vergne, qui a été 8e en Malaisie, en Belgique, en Corée du Sud et au Brésil. Et Daniel Ricciardo lui a marqué 10 points, 9e en Australie, en Belgique, à Singapour et en Corée du Sud.
Et Vergne, c'est Mr. 8.
J'ai dit des commentaires.
Pour Axel, une saison moyenne, mais pouvait-il faire plus? Jean-Éric domine au point Daniel, qui le domine en qualif. Un bel esprit d'équipe cependant. Mais depuis qu'elle n'est plus assise en classe à côté de Red Bull, Toro Rosso semble avoir du mal. Pour Romain, malgré quelques bonnes notes, les résultats sont en dessous de la moyenne. Il faut persévérer et faire confiance en ses capacités. Et ses capacités, c'est ses deux bons pilotes.
Le délégué de classe, Adelin, qui nous dit « Voiture assez médiocre, faut bien le dire, ne laisse pas l'opportunité au pilote de s'exprimer. Concernant Ricciardo, saison satisfaisante dans l'ensemble, légèrement plus régulier que Vergne, mais fait de moins bonne place. Pour Vergne, moins régulier, mais quel pilote, surtout sous la pluie. »
De toute façon, toi, Rosso doit faire mieux. D'ailleurs, Mathieu Schiss l'a encore dit cette semaine. parce que l'objectif c'est quand même de trouver des futurs pilotes Red Bull. Mais bon, faut aussi leur donner le matériel pour, parce que la Toro Rosso était clairement pas une voiture capable d'aller chercher les Williams, les Force India et les Sauber. Du moins pas à la régulière, donc voilà. Après, non, les pilotes, ils ont pas été mauvais. Je pense que Daniel Ricciardo, il est très bon en qualif, un peu moins en course, alors que c'est l'inverse pour Verne. Donc si l'année prochaine, ils ont une meilleure voiture, ce qui avec James Key, bah laisse quand même espérer des améliorations. Et que si Ricciardo et Verne arrivent à atténuer leurs points faibles, je pense qu'on a là une belle équipe avec un beau duo de pilotes.
Faut voir les moyens que Red Bull donne à cette écurie aussi, parce que je sais pas si s'ils sont bloqués par leurs moyens ou si c'était des personnes qui fournissaient un mauvais travail. Mais c'est sûr que les résultats...
Le budget est pas le même, hein.
Oui, c'est sûr. Après, ils donnent 300 millions à Red Bull et 100 millions à Toro Rosso. Enfin, c'est des exemples, je connais pas du tout les chiffres et d'ailleurs pas grand monde doit les connaître. Enfin, il faudrait leur donner peut-être un peu plus parce que 100 millions c'est pour la F1 moderne c'est un strict minimum si on veut ne serait-ce que figurer tout simplement sans avoir de grands espoirs de résultats. D'où la 9e place au classement et assez loin derrière Williams, quoi.
Ouais, mais après c'est difficile. Enfin, évidemment la situation de Red Bull fait que malgré tout t'as une équipe qui truste les titres depuis plusieurs années. Et puis c'est délicat. Déjà ils sont dans une position délicate parce que c'est quand même une écurie, même si c'est pas dit de manière forcément très très claire. Mais enfin ils cherchent quand même parfois à la revendre. Bon, t'as aussi le fait que voilà, c'est quand même qu'une junior team, donc c'est pas pareil, tu vois. Comme, enfin, je veux dire, à mon avis, c'est ça la politique, c'est vraiment de mettre le strict minimum, histoire de viabiliser une structure, mais pas plus, et puis d'offrir du roulage à des pilotes. De toute façon, ça a jamais été autrement que ça. Donc finalement, le fait qu'il n'y ait pas eu de progression cette année, c'est la résultante, enfin, c'est la suite logique, c'est malheureux, mais enfin, il n'y a pas eu de progression. Faut quand même relativiser aussi. La fin de saison était quand même un peu meilleure.
Depuis l'arrivée de James Key. L'arrivée de James Key, c'est ce qui laisse aussi optimiste pour l'an prochain.
Ouais, voilà. Alors après, voilà, peut-être qu'avec des meilleures personnes et le même budget, tu vas peut-être arriver à faire quelque chose de plus intéressant. Mais pareil, la vocation, voilà, même si on a beau dire qu'il n'y a plus tellement de liens, c'est complètement, c'est complètement biaisé. Il y a forcément des liens entre les deux structures.
D'avoir des liens.
Ouais, mais un autre intérêt d'avoir une deuxième écurie, ce serait de pouvoir, à l'occasion, être assez bon pour titiller les concurrents. Alors peut-être pas monter jusqu'à Ferrari McLaren, mais de prendre des points à certains moments ponctuellement quand il y en a besoin aux autres écuries. Là le rôle de Toro Rosso c'est une écurie qui est un peu indépendante du coup, effectivement, qui donne le strict minimum, mais du coup il y aura jamais aucune ambition dans cette écurie de faire mieux, quoi.
Mais c'est aussi le risque de voir ce qu'on a vu en 2008 où justement l'écurie est tellement en passe de pouvoir prendre des points au gros qu'elle t'en prend des points à toi.
Non mais c'est ça, et puis est-ce que ça serait bien vécu par l'ensemble du paddock que tes deux écuries Red Bull entre guillemets donc quatre voitures.
Ils ont déjà peur qu'il y ait deux Ferrari, trois Ferrari sur le podium.
Non mais voilà, faut le dire, à un moment faut quand même y a aussi des raisons, quoi. C'est pas une position très tenable, hein, même dans l'état actuel des choses. On l'a bien vu d'ailleurs avec le dernier Grand Prix, mais pas seulement, globalement sur toute l'année, on a bien vu que à chaque fois qu'une Toro Rosso se faisait dépasser par une Red Bull, ça faisait un petit peu jaser.
Et de toute façon, est-ce que c'est possible de la part de Red Bull?
Non, mais je pense pas.
D'entretenir, enfin, je pense qu'aujourd'hui, ils peuvent pas non plus investir plus. Enfin, c'est une question de choix. C'est soit t'investis à fond sur une écurie première, soit tu trouves un partenaire solide financièrement pour t'aider avec ton écurie première, pour pouvoir t'investir un peu plus sur la deuxième écurie. Enfin, c'est une position qui est quand même assez, enfin, c'est un équilibre à trouver qui est assez compliqué, je trouve.
Est-ce que Abarth n'a pas racheté des parts de Toro Rosso? Parce qu'ils ont quitté Mercedes, mais il me semble qu'ils sont investis chez Toro Rosso pour l'an prochain. Donc ça viendra peut-être de là aussi.
Après, effectivement, sur les pilotes, il n'y a pas de mauvais points à distribuer. Peut-être Verne sur les qualifications, quoi. Parce que
des beaux résultats. Hein.
Oui, mais en plus le pire c'est que l'année prochaine il y aura deux voitures, il y aura plus que 22 voitures si HRT ne revient pas. Donc il y aura deux voitures autres que les Caterham et les Marussia qui seront éliminées. Donc ce sera, enfin, faudra vraiment s'activer en Q1 pour passer en Q2.
Et nous allons passer à Marussia, qui avec une moyenne de 10,63 est donc devant Toro Rosso. Marussia qui a une note minimale de 8, une note maximale de 12,7. Vous retrouverez le détail des notes sur les bulletins. Au classement du SAV, l'écurie a marqué 2 points grâce à Charles Pic qui a fini 9e en Hongrie. Au classement officiel, cependant, l'écurie a marqué 0 points et les deux pilotes ont réalisé chacun une 12e place. Timo Glock à Singapour qui avait permis donc à l'équipe de prendre la 10e place au classement constructeur provisoire, et Charles Pic qui fait une 12e place au Brésil, donc qui égale la meilleure performance de l'équipe, mais ça ne suffit pas dans la mesure où Petrov étant devant, ils perdent la 10e place aux dépens de Caterham.
Oh, c'est ballot, hein. Il était très déçu, je suis sûr.
Ah là, dire qu'il aurait pu être 11e. Et donc, Fiji, côté rédacteur, qu'est-ce que nous avons comme commentaire sur
pour Mathieu, Marussia a changé ses méthodes de travail pour s'aligner sur ce que font ses camarades de classe. Son travail avec McLaren a semblé porter ses fruits avant de se faire battre par Caterham dans le final de l'année. Pour Quentin, alors, Glock, dur pour lui cette année. Globalement, c'est ça, c'est décevant pour Glock. Parce qu'il y a Pic, hein, et Pic, brillant et discret, le coup de cœur de 2012.
Côté du délégué de classe, Adelin, nous avons, je pense que cette écurie a beaucoup plus de potentiel que Caterham, car ils font de petites merveilles avec peu de moyens. Je demande à voir l'année prochaine quand ils auront le Kers. Concernant Glock, bonne saison en général. Concernant Pic, très bonne saison pour commencer et qui peut rivaliser avec Glock.
Ouais, enfin, faudra voir ça pour 2013, parce que c'est vrai que Caterham, ça fait depuis le début qu'ils sont là, qu'on se dit, ouais, l'écurie fait du bon boulot, et chaque année, on espère qu'elle va passer à la vitesse supérieure. Donc, faudra voir, Marussia, c'est vrai que la saison est bonne, mais voilà quoi, il faudra confirmer l'an prochain.
Mais est-ce qu'il n'y a pas un problème de dispersion du côté de Caterham, qui explique aussi leur saison un peu en déclin? Enfin, il y a le constructeur automobile qui s'est mis en route, il y a, on l'a appris il n'y a pas longtemps, le deal avec Renault concernant Alpine. Est-ce que de la part de Caterham, ils se sont pas un peu dispersés cette année, avec Tony Fernandez qui était à la fois à la tête de l'équipe, mais en même temps qui était à la tête de ses affaires, de ses entreprises? Est-ce que vous pensez pas que vous, l'année prochaine, avec Cyril Abitbol et avec une réorganisation un peu faite, on pourrait retrouver Caterham qui vraiment là reprendra sa marche en avant?
Ouais, peut-être. Bah, c'est vrai que même quand McLaren est passé à se concentrer sur la mise en route de sa voiture de route, justement, avec Ron Dennis, on a aussi senti qu'il y a eu un peu de flottement. Donc bah, peut-être que chez Caterham, effectivement, c'est le même principe, et qu'avec les petits changements qui vont être opérés pour l'an prochain.
C'est vrai que Mike Gascon doit plutôt se recentrer sur un rôle managérial, c'est ça. Enfin, j'ai pas trop suivi.
Ouais, mais il a pu superviser le bazar, lui.
Ouais, c'est peut-être un rôle où il est peut-être meilleur que designer, parce que si on reprend l'historique de Mike Gascon, à chaque fois il arrivait dans une écurie qui venait de un peu de percer, comme il arrive chez Jordan en 98 ou 99 au moment où l'écurie commence à gagner. Pareil, il arrive chez Renault en 2004 ou 2003, là encore l'écurie est en progression. Là, c'est sûr que Caterham stagne un peu, et peut-être qu'il faut du sang neuf niveau design, niveau conception de la voiture, parce que ça n'évolue pas, quoi.
Et là où
malgré le Kers, c'est le moteur.
Et sur Marussia?
Marussia, une bonne surprise, parce que c'est vrai que en général c'est pareil sur les deux dernières années. On était un peu pessimiste sur Marussia, on trouvait que justement c'était l'équipe qui entre guillemets progressait le moins. Et finalement cette année a été plutôt une réussite sur le plan de la progression pure, quoi. Parce que bon, alors évidemment on est encore loin de prétendre au point, mais aller vers que les courbes de progression de Marussia et de Caterham se rejoignent en fin de saison, je trouve que c'est une très bonne chose. Et globalement, tu sens que dans cette équipe, il y a quand même une ambiance assez une ambiance qui est meilleure, hein. Je sais que pour le coup, les déclarations en général d'après Grand Prix sont très positives, mais je veux dire, tu sens réellement une volonté de travail, une volonté de mise en œuvre de cette progression. Peut-être d'ailleurs que le partenariat avec McLaren est à l'origine de ce renouveau, quoi, finalement. Mais oui, globalement, je trouvais une très bonne saison, et puis ça m'étonne pas qu'elle soit devant les deux autres écuries au classement final, quoi. Mais voilà, après, bah, sinon sur les pilotes en eux-mêmes, voilà, bon, Glock, comme tout à l'heure, je dis qu'il avait été éteint, quoi, assez amorphe, se déresponsabilisant toujours un peu quand même. Et puis Pic, une bonne saison, une saison d'apprentissage, une année assez correcte de sa part.
Ouais, non, il a justifié sa titularisation en F1, le pic. Hein. Mm. Et Glock, ben, est un sauve à Singapour. Singapour, chaque année, il nous fait un truc. On ne sait pas pourquoi.
Singapour, on sait qu'il y a beaucoup d'abandons, etc. Donc ça aide à faire des résultats pour ces petites écuries.
Ouais, mais même du temps où il était chez Toyota, c'était une piste qu'il appréciait quand même.
Son meilleur, c'est quand même la Hongrie. Il avait fait deuxième, je crois, sur la Toyota.
Voilà, je connais pas le palmarès par cœur de Glock, mais...
Alexa, de secours. Alors là, je crains que en commentaire, on ait le palmarès complet de Glock par Alexa.
Ça va pas être long.
Elle peut peut-être le mettre sur Twitter, ça ira plus vite, non?
On a fait le tour de Maroussia, on passe à l'équipe suivante.
Allons-y.
Et là, en équipe suivante... Alors,
Ça, c'est une sale note.
Une moyenne de 11,43. Une note la plus basse de 9,5. Une note la plus haute de 12,7. C'est l'écurie Mercedes, qui s'est classée pourtant 5e au classement du SAV avec 141 points. Michael Schumacher a terminé 10e du classement du SAV avec 77 points. Meilleur résultat 3e en Europe. Nico Rosberg a terminé 11e au classement du SAV avec 64 points. Meilleur résultat en Chine, où il a été premier. Au classement officiel, l'écurie est 5e avec 142 points. Preuve que le classement du SAV a pas mal collé à la réalité. Michael Schumacher, lui, n'est cependant que 13e dans ce classement avec 49 points. Son meilleur résultat est 3e en Europe, son seul podium depuis son retour. Quant à Nico Rosberg, il est 9e du classement officiel avec 93 points, donc plus que dans notre classement à nous. Mais il a, comme dans le classement du SAV, une victoire en Chine pour meilleur résultat.
Pour Clément, pilote méritant au volant d'une monoplace compliquée, une victoire pour Rosberg, le seul moment fort de sa saison. Un podium pour Schumacher. Pour Axel, très décevant, après la victoire en Chine, on pensait que l'équipe allait continuer sur sa lancée, mais non. Tout juste la moyenne pour Schumi grâce à quelques fulgurances, mais Nico était clairement devant lui, n'aura jamais un diplôme si ça continue comme ça.
Du côté du délégué de classe Adelin, saison à oublier avec une voiture qui mange les pneus, faudra voir ce que ça donne avec Lewis Hamilton la saison prochaine. Schumacher, dommage pour sa dernière saison, il a fait une superbe saison pour moi, mais avec un manque de réussite. Je suis déçu car s'il avait eu cette réussite, il aurait pu être, je pense, 8e au championnat. Concernant Rosberg, super victoire qu'on ne peut pas lui retirer en Chine, mais à part ça, pas grand chose. Dès que le titre n'était pas jouable, j'ai eu l'impression qu'il a tout laissé tomber.
Ouais, c'est vrai qu'à part la victoire, Mercedes, c'est un peu comme Caterham finalement. Ça fait 3 ans et elle est toujours au même stade. Chaque année, on nous dit non, il n'y a pas de problème avec les pneus. Et en fait, si, il y a des problèmes avec les pneus, c'est évident. Voilà, en Chine, ils ont gagné. On a cru que ça allait pouvoir être un déclic, mais non. Donc voilà, les pilotes ont effectivement pas démérité. Schumacher a quand même failli faire la pole. Il a le meilleur temps, en tout cas, des qualifications à Monaco. Mais c'est vrai que voilà, sur la fin de l'année, les 5 derniers Grands Prix, hormis le Brésil, ils marquent pas de points, quoi. Donc ça stagne
saison,
quand même.
C'est leur pire saison. En plus, on a plein l'impression que les décisions sur le plan de oui, je vais me concentrer sur les pneus, de maintenant oui c'est bon, on a compris les pneus, on va passer à, enfin on va commencer à développer des pièces parce qu'on est un peu en retard. Et finalement les pneus c'est pas réglé, etc. J'ai un peu l'impression qu'ils ont navigué à vue et que c'était pas du tout ça, quoi. Et puis moi je commence à avoir vraiment des doutes sur la capacité de Brown à être team manager. On sait que le titre de Brown GP, etc., c'est parce que Honda, enfin c'est le truc que je dis à chaque fois, je vais pas revenir là-dessus, c'est les ressources d'Honda, c'est 18 mois de soufflerie, etc. Du coup, je sais pas s'il y a pas un problème de personne, de décisionnaire dans cette écurie.
Moi, je pense qu'il y a trop de grands noms dans le staff technique. C'est comme quand tu vois un film avec une grande affiche avec plein de grands noms sur l'affiche, tu te dis ouh, t'as vu, ils ont mis tout l'argent dans le budget dans les noms. Mmh. Et là, t'as l'impression que voilà, il y a un truc qui colle pas. Et puis alors l'arrivée de Niki Lauda dans un rôle un peu obscur, moi, ça me rend pas super optimiste. Hein.
C'est un peu The Expendables en fait.
Ouais, la dernière fois que Lauda a été impliqué. La dernière fois que Lauda a été impliqué dans une équipe, c'était Jaguar, donc je sais vraiment pas pourquoi ils ont cherché ce gars.
Non, mais globalement, c'est toujours pareil, quoi. C'est ce qu'a dit Ben, ce qu'a dit Marc, c'est-à-dire que les mêmes problèmes et toujours l'absence de solution, quoi. En tout cas, c'est vrai que quand tu vois la deuxième partie d'année indigente de l'équipe, C'est vraiment, mais je crois que c'est vraiment la, leur moitié de saison, ça doit être une des plus mauvaises depuis qu'ils sont revenus. Enfin, je.
Oh, s'ils avaient la sixième ou septième voiture, quoi, au final.
Ouais, non, mais c'est ça. Enfin, à chaque
sortir
fois,
ils. Vraiment parce que plus Schumacher que Rosberg, d'ailleurs, sur la fin de saison, ils ont quand même deux bons pilotes. C'est, enfin, j'enfonce un peu une porte ouverte parce que bon, Schumacher, quoi. Mais ouais, parce qu'ils ont vraiment des pilotes de classe.
Ouais, non, mais c'est ça. Et je veux dire, si t'enlèves ça, c'est miraculeux qu'ils aient prétendu à la victoire sur certaines courses, quoi. Quand ils réfléchissent, parce que c'est incroyable la différence de niveau, quoi.
Ils auraient dû s'inscrire au trophée Andros.
C'est le niveau de l'évolution technique aussi, moi, que ça me sidère. Parce que quand tu vois, là, le temps qu'il leur a fallu pour mettre les échappements Coanda, alors que Ferrari s'est quand même mis super rapidement, alors qu'ils ont des pointus.
Mais c'est voulu, en plus. Enfin,
mais oui, c'est ça qu'ils ont voulu. Pas, enfin, voilà. Parce que chez Lotus, ils nous ont dit, oui, on s'est focalisé d'abord sur le double DRS et blabla. Bon, en même temps, Lotus, en termes de développement, c'est pas non plus forcément les plus rapides.
Il y a moins de
chez Mercedes, c'est ça, il y a plus de budget chez Mercedes, et puis ils ont des têtes, quoi, dans le département technique. Enfin, c'est pas pour dénoter le département technique de Lotus, mais chez Mercedes, il y a quand même une belle palette, quoi.
Et Schumacher, parce que c'est le grand débat du moment, c'est est-ce qu'il a eu raison, d'après vous, de revenir?
Bah oui,
il y a
que lui qui peut répondre à ça, quoi.
Franchement, dans l'absolu, moi j'ai déjà dit que sa plus grande réussite c'était d'avoir réussi à être plus sympathique que ce qu'il était avant. Donc, voilà, dans ce niveau-là, je pense que
on pourra pas lui enlever.
On est déçu forcément par rapport à ce qu'il a fait lors de sa première carrière. Mais
bon, ouais, mais en fait, ouais,
mais ce que je veux dire, c'est que les résultats qu'il a eu, même s'ils nous apparaissent décevants, ils satisferaient une bonne partie du paddock.
Le matos qu'il a eu
dans une Red Bull, il faut aussi bien que Weber, par exemple,
voire mieux, largement mieux. Enfin, c'est pas le même calibre.
Voilà.
Ah bah carrément pas.
C'est vrai qu'il faut dire qu'il a quand même, au moment où Mercedes marchait bien en début de saison, il a quand même été, guignard comme pas possible.
Ouais, ouais.
Et au moment où la Mercedes vraiment était plus dans le coup, là, tout d'un coup, il a vraiment pu entre guillemets faire ses courses. Il a été un peu lâché par le chat noir qui le suivait, et il a un peu plus fait la différence par rapport à Rosberg. Et il a un peu plus concrétisé. Donc c'est un peu dommage parce que le moment où il pouvait vraiment se montrer, où je pense vraiment qu'il est en début de saison, il était même supérieur à Rosberg. Malheureusement, il a pas eu de chance, quoi. Donc
il y a eu de l'inconstance, mais parfois il a été vraiment extrêmement bon. Ça, voilà, ça s'est pas concrétisé.
En Chine,
parfois
il était
sous la pluie. Et Monaco, voilà, il fait le meilleur temps.
En Australie, il est quatrième sur la grille, il est troisième au moment où la boîte elle casse, quoi.
Au Canada aussi, il avait été bon.
Et voilà, maintenant je pense pas qu'il ait eu tort de revenir, mais je pense qu'il a raison de partir. Parce que de toute façon, clairement, je pense qu'il se rend bien compte que voilà, c'était aussi ça. Il se rendait bien compte que Mercedes pataugeait un peu dans la semoule et que en 2013, ça allait pas être non plus être transcendant. Donc je pense que c'est pour ça qu'il a été reversé.
Et qu'il y pouvait rien parce que on peut plus faire d'essais et que enfin ça a changé depuis l'époque Ferrari.
C'est plus son époque. Hein.
Ouais. Ah, je pense qu'il est de toute façon voilà, il a fallu un temps d'adaptation. Il est quand même resté 3 ans sans vraiment faire de condition. Vraiment, un Raikkonen qui pendant 2 ans a quand même fait du rallye, donc faut relativiser les deux retours. Il est plus jeune aussi, Raikkonen. Mais voilà, donc c'est clair qu'en 2010, il a fait une saison qui était moyenne et il aurait pu faire mieux.
Donc, dans 3 ans, Michael. Hein. ensuite, écurie suivante, messieurs. La dernière écurie sous la moyenne générale de la classe, c'est Williams avec une moyenne de 12. La plus basse note, c'est 9. La plus haute, c'est 13,4. Au classement du SAV, l'écurie a terminé 8e avec 66 points. Pastor Maldonado était 13e au classement pilote, 44 points. Premier en Espagne, naturellement. Et Bruno Senna, 17e avec 22 points. Sa meilleure performance, c'était une 6e place en Hongrie. Au classement officiel, l'écurie a terminé 8e avec 10 points de plus que dans le classement du SAV, 76 points. Pastor Maldonado est un peu moins bien classé, 15e, mais a 1 point de plus que dans le classement du SAV, 45 points. Et son meilleur résultat, ça reste l'Espagne. Bruno Senna est 16e quant à lui avec 31 points, une 6e place en Malaisie pour meilleur résultat.
Pour Quentin, alors Maldonado, un beau devoir rendu en espagnol, mais encore des progrès à faire dans les autres matières. Senna, gâchis, recalé en 2013. Pour Romain, Monsieur Williams a réussi les objectifs qui étaient fixés en début d'année. Il faut persévérer et ne pas oublier ses acquis. Le vécu est aussi une force. Ils ont gagné qu'une place au classement entre 2011 et 2012, mais quelle différence !
Oui.
Oui, clairement.
Alors, juste à noter le point de vue de notre délégué de classe, voiture très bien née, mais qui n'a pas forcément évolué. Quand il disait, on reprend l'aileron de Barcelone, ils auraient dû être bien plus haut dans le classement, je pense, devant Force India et Sauber.
Ah, c'est vrai qu'ils n'ont pas profité de toutes les occasions, ils n'ont pas tiré le plein potentiel de la boîte tout le temps. Que ce soit eux, l'équipe, en tant qu'équipe ou même les pilotes. Maldonado, après sa victoire, il a un peu fait tout et n'importe quoi. Mais
il a fallu fin d'année,
il y avait quand même
8 ou 10 grands prix avant de revenir dans les points, Maldonado, je crois. Non,
mais fin d'année, ça laissait entrevoir de. On avait l'impression qu'il s'était un peu assagi, donc pour 2013, on va espérer que ce soit le cas, parce que je pense que c'est quand même un pilote très rapide. Maintenant, il faut qu'il ait un peu plus de jugeote de temps en temps.
Mais
c'est ça qui lui manque.
Ça fait quand même du bien de voir une écurie historique qui sort la tête de l'eau, parce que 2011-2010 ça avait pas été deux saisons faciles. Alors le moteur Renault aide, etc. Donc il faut juste qu'il continue dans cette voie et qu'effectivement niveau pilote ça fasse mieux, parce que je vois plus les pilotes comme maillon faible. Senna surtout par rapport à Maldonado qui peut apporter des bons résultats s'il se calme. Et c'est pour ça que voir Bottas l'année prochaine ça me réjouit un peu, et c'est encourageant pour 2013.
Et ben là, c'est vrai que c'est un petit, entre guillemets, un point d'interrogation quand même pour l'an prochain, parce que c'est vrai qu'en essai il a fait apparemment des belles choses, et c'est vrai que quand on regarde les temps il s'est retrouvé parfois devant Maldonado, mais c'est vrai que comme on l'a dit plus tôt dans l'émission, après depuis la Formule 2 on l'a pas vu dans d'autres catégories, donc bon, la Formule 2 ça reste la Formule 2 quoi, donc c'est vrai que l'année prochaine ce sera intéressant de le voir. En plus un Finlandais qui sourit, c'est quand même assez impressionnant. Donc
non, puisqu'il est encourageant Bottas, c'est que c'est entre guillemets, c'est depuis pas mal de temps, c'est un pilote qui est choisi par l'équipe. T'as pas l'impression que c'est un pilote qui est imposé par le budget. Là, vraiment, ils ont fait le choix de prendre Bottas. Ils ont investi sur lui depuis plusieurs années. Donc, t'as vraiment l'impression qu'ils sont aujourd'hui dans une démarche de retour entre guillemets au premier plan, mais vraiment dans une démarche où ils ont les moyens enfin de leurs ambitions. Et ce qu'on peut espérer cette année, c'est qu'elle pose les bases pour l'année prochaine, d'attirer des sponsors, de pouvoir un peu mieux respirer financièrement, de pouvoir, on a un peu senti ça aussi cette saison en termes de développement, de pouvoir se donner un peu plus de force de frappe, ça peut être assez sympa.
Au final, sur Bottas, ça fait pas si longtemps que ça finalement qu'il a arrêté. Il a été champion de GP3 en 2011. Mmh. Il a pas fait de Formule 2 en fait. Derrière, il avait fait deux saisons de Formule 3 et deux saisons de Formule Renault. Donc en fait, il y a juste cette année qu'il a pas couru quoi. Mais en même temps, il était sur 15 grands prix en tant que troisième pilote.
Il s'est imprégné de l'équipe lui déjà, c'est, je pense que ça sera quelque chose qui va très rapidement porter ses fruits et qui va, je pense, dès les essais hivernaux le faire rapidement rentrer dans le bain, parce que lui il connaît la structure, il sait comment ça fonctionne, et c'est pas comme d'autres pilotes qui effectivement ont passé un peu de temps sur les week-ends de course, mais plutôt en fin de saison, c'est-à-dire quand ils avaient plus leur championnat respectif. Mais oui, c'est vrai que pour le coup c'est un pilote que j'ai envie de voir quoi. On l'annonce très prometteur, espérons que ce soit le cas pour Williams, c'est sûr, parce que pour reprendre sur les pilotes de cette année, Senna, disons qu'on avait d'un côté les performances, les très bonnes performances de Maldonado, qui ont été beaucoup gâchées, alors soit par un excès d'optimisme, soit par problème de fiabilité. Je pense surtout à la course emblématique, c'était quand même Singapour, où il faisait une course extrêmement sérieuse, extrêmement appliquée. Enfin, je veux dire, on voyait mal ce qui pouvait lui arriver. Il était vraiment bien, et puis malheureusement, il a eu ce problème sous safety car, je crois, ou un peu avant. Enfin. Voilà quoi, donc mais la fin de saison de Maldonado était intéressante, plus assagie, bon, en même temps moins d'occasions de briller quand même en fin de saison aussi.
C'est un peu le contrepoids de Pérez en fait. Enfin, au moment où Pérez s'est mis à faire un peu n'importe quoi, Maldonado de l'autre côté a commencé à s'assagir.
Ah bah, c'est vrai. Parce qu'il s'est senti menacé. Il faut quand même rappeler que les derniers mois chez Williams, lui-même disait qu'il était pas sûr de son avenir. Donc c'est ça aussi. C'est peut-être que lui s'est senti menacé. Donc du coup, un peu même à l'image de Senna qui a fait une bonne fin de saison, ils se sont reconcentrés et ils se sont mis la pression pour bien faire. Là où Perez, bah finalement, il était conforté dans le luxe en disant de toute façon l'année prochaine je suis chez McLaren, mon avenir est fait. Donc pour moi, plus rien se joue.
Et puis il y a peut-être eu recadrage de la part de Williams qui a dit maintenant ça suffit.
L'effet de la suspension de Grosjean.
oui, et Williams qui a dû appuyer là-dessus, qui a dû dire maintenant ça suffit. On a des points importants à marquer, on a déjà manqué beaucoup d'occasions, maintenant c'est plus le moment de passer à côté.
On passe à l'écurie suivante, messieurs. la première écurie qui est au-dessus de la moyenne générale de la classe, qui est de 12,5, donc je vous rappelle. Et c'est Force India avec une moyenne de 12,72. Une plus mauvaise note de 10, une meilleure note de 14,5. Au classement du SAV, l'écurie indienne a été 7e cette saison avec 85 points. Nico Hülkenberg est le pilote le mieux classé avec 55 points à lui tout seul. Sa meilleure performance, c'est une 3e place au Brésil que nous lui avions donnée. Quant à Paul Di Resta, il est 16e au classement avec 30 points. Et sa meilleure position, c'est lui aussi une 3e place, mais à Singapour. Au classement officiel de la F1, l'écurie est 7e avec 109 points, donc plus encore que nous dans notre classement. Nico Hülkenberg était 11e avec 63 points, 4e en Belgique comme meilleure performance, tandis que Paul Di Resta, lui aussi 4e à Singapour, termine 14e au classement avec 46 points. Donc globalement, on les a un petit peu moins bien notés que dans la réalité Force India.
Pour Mathieu, Force India est un élève en progression au fur et à mesure qu'il s'est adapté depuis son adoption par ses nouveaux parents. Elle s'est hissée dans le milieu haut du peloton au point de rivaliser avec ses camarades Sauber et Mercedes en fin d'année scolaire. Pour Clément, une saison encourageante, des progrès devront être faits pour viser mieux. Il faudra surtout confirmer en 2013.
Du côté de notre délégué de classe Adelin, nous avons bonne voiture et constant tout au long de l'année. Concernant Paul Di Resta, il est largement en dessous d'Hülkenberg cette saison. Est-ce lui qui ne fut pas bon ou Hülkenberg qui lui fut supérieur? Et justement, concernant Hülkenberg, pas beaucoup de fautes cette saison et de beaux résultats dans l'ensemble.
Moi, je suis toujours assez impressionné par cette capacité qu'a Force India d'être devant une régularité dans la saison. C'est-à-dire de commencer avec une voiture avec une bonne base, pas flamboyante ou transcendante, mais de la porter jusqu'à la fin de la saison, la développer correctement et de bien finir. Même si on accepte le coup d'éclat d'Hülkenberg au Brésil, ils étaient là alors que ils ont peut-être pas forcément le budget pour développer bien une voiture et pourtant ils y arrivent. C'est ça que je trouve intéressant chez Force India.
Ouais, c'est la régularité dans la progression qui est passionnante. C'est pas trop la régularité dans les résultats, c'est vraiment eux, ça évolue quoi.
Ouais, bah chaque année sur la fin du championnat, on sent qu'ils font finalement mieux qu'en début. Alors que ils ont bien débuté à Melbourne, etc., en marquant quand même des points, moins que leurs adversaires, mais
personnellement, en début de saison, j'étais quand même un peu déçu de leur niveau, en fait, parce que les essais hivernaux avaient été assez prometteurs, je sais pas si vous vous souvenez. On en faisait pourquoi pas une prétendante au régulière au top 6, top 8, bon, voilà pas. Et c'est vrai que le début de saison a été quand même difficile malgré tout, avec des résultats, je me souviens en qualification c'était quand même très souvent en fin de Q2, des résultats qui n'étaient pas forcément en course très encourageants. Mais c'est vrai que globalement, je vous rejoins après une progression vraiment constante. Comment dire? Et puis voilà, c'est la capacité à s'adapter aux exigences de l'année, quoi, aux difficultés de l'année qui est récurrente chez cette équipe. Et c'est globalement, c'est une équipe. Moi personnellement, j'aime bien, quoi. C'est une équipe qui me plaît bien, pas forcément prétentieuse, bien. comment dire?
Non, mais il n'y a pas eu de traversée du désert. Voilà. Si je peux me permettre un petit jeu de mots.
Et pour revenir sur les pilotes, sur la fin de l'année, Hülkenberg a clairement dominé Di Resta.
Oui.
Di Resta a mieux que débuté, Hülkenberg reprenait un peu ses marques, on sentait un peu, il était pas mal en qualif, mais en course, peut-être un peu brouillon de temps en temps.
Il était en mode Rosberg.
Mais voilà, sa course du Brésil, c'est le plus bel exemple, je pense. Effectivement, je me demande si Di Resta n'a pas un peu mauvaise de se dire, je vais encore devoir rester là l'année prochaine.
Ouais.
Parce qu'il a été cité un peu partout et finalement il n'a pas de promotion. Donc,
Mais le problème c'est que le truc de Di Resta, c'est que est-ce qu'il s'est justement pas un peu déconcentré par les bruits qu'il courait? Parce que je pense vraiment qu'à un moment donné, peu à peu, il s'est éteint au cours de la saison.
Ouais, pour moi, c'est quand même plus Hülkenberg qui crève l'écran, qui s'adapte à Force India parce qu'il découvre son fameux plan un an par un an. qui découvre et qu'au final, il s'adapte que Di Resta qui plonge, en fait.
Oui, parce que c'est vrai que Di Resta, c'est pas non plus une année difficile, quoi. Il est dominé, donc forcément, c'est toujours la comparaison qu'on fait en premier, mais après, il est pas au fond du trou.
Au classement officiel, il est devant Kobayashi qui avait quand même un meilleur matériel en début de saison. Donc voilà, enfin ça reste globalement une saison moyenne, mais une saison honorable.
De toute façon, globalement, ils ont quasiment tous le niveau pour être en F1, quoi. Il n'y a pas d'injustice dans les compositions des écuries. On a vraiment un bon niveau, quoi.
Ouais, c'est vrai que globalement, sur toutes les écuries, même chez HRT, on peut dire, c'est quand même les pilotes, peut critiquer le niveau de certains pilotes, mais quand même, De La Rosa, voilà, il y a eu pire, quoi. De La Rosa est quand même un pilote d'expérience, et Carty Kagan, et c'est pas une chèvre non plus, il a déjà fait de la F1, il avait fait des tests pour Williams, donc voilà, c'est pas non plus,
Ah non, on est loin du niveau des pilotes payants de, ouais, des débuts des années 2000, quoi, où là, c'était
ouais,
historique, mais.
C'est, d'ailleurs, c'est un peu une injustice de certains gens qui commentent et qui disent, voilà, maintenant, l'argent est roi, il faut payer pour avoir un baquet. Déjà, ça a été comme ça de tout temps, parce que, rien que dans les débuts de la F1, c'était des riches barons qui payaient le.
Alfonso de Portago.
Voilà.
Enfin, quand même, voilà, c'est, alors, il y a bien un exemple.
C'est-à-dire que maintenant, il faut l'être peu, quoi. Faut le talent
oui,
et
l'argent. Voilà, c'est exactement ça. Depuis les 3-4 ans, on ne peut pas rentrer en Formule 1 sans un minimum de talent qui fait que les pilotes, globalement, ont tous une place méritée en Formule 1. Même si, effectivement, pour ça, ils ont besoin d'apporter 5-6 millions d'euros.
Mais le talent, c'est l'argent aussi. Sports, hein. Parce que si tu es un bon pilote, tu rapportes des points, et au championnat constructeur, ça rapporte de l'argent. Donc...
Et c'est sûr que si on fait la comparaison par rapport à d'autres sports, le football et compagnie, c'est sûr que c'est très rare quand un footballeur a besoin de payer pour jouer dans un club. Il est payé pour jouer. Mais bon, l'échelle des salaires n'est pas la même, et surtout, le marché n'est pas aussi concurrentiel. Enfin, n'importe quel footballeur un peu talentueux aujourd'hui peut trouver un club en Ligue 1 ou en même en deuxième ligue d'un championnat.
Ouais, c'est quoi. Même l'inverse au football. Quoi. C'est, maintenant, les footballeurs sont un peu trop payés.
Oui.
Par rapport à leur talent, parce que il y a un potentiel derrière, on surpaye par rapport à des capacités qui.
Ce sont les joueurs qui font le marché et pas les clubs. Ouais, là où en Formule 1, ce sont les écuries qui font le marché, les places qui font le marché. Ouais.
Bah,
ils n'ont pas
places,
le talent.
Il n'y a que 22 places.
Et donc, messieurs, après Force India, nous allons passer à une nouvelle écurie et c'est l'écurie suisse Sauber. Nous aimons l'écurie Sauber. Nous aimons la Suisse. Bravo la Suisse. Qui a donc une moyenne générale de 13,69. La plus mauvaise note pour Sauber, c'est 10. La meilleure note, c'est 15. J'en profite pour rectifier tout à l'heure. Hein, j'ai dit que Williams, la meilleure note, c'était 13,4. En fait, non, c'est 14, donné par Fab. Voilà. Sauber, au classement du SAV, a terminé 6e avec 122 points. Sergio Perez est 9e avec 79 points, dont deux premières places en Malaisie et en Italie. Kamui Kobayashi, quant à lui, a terminé 14e avec 43 points à son actif, dont le meilleur résultat est une 2e place au Japon. Au classement officiel, Sauber a également terminé 6e avec 126 points. Sergio Perez a terminé 10e avec 66 points, de 2e place en Malaisie et en Italie. Tandis que Kamui Kobayashi est 12e avec 43 points. Il a terminé 3e au Japon, son seul podium en carrière.
Pour Axel, quelle année ! Sergio passe en classe supérieure l'année prochaine grâce à un très bon bulletin. Mais Kamui n'aura pas réussi à convaincre malgré de belles dispositions. L'équipe change ses pilotes la saison prochaine et devra prouver que ses performances n'étaient pas qu'un accident. Pour Quentin, Kobayashi inexistant face à son petit camarade, Perez, de belles aptitudes à confirmer en grande section.
Putain, McLaren, c'est la grande section de maternelle. Concernant notre délégué de classe, Adelin, à propos de Sauber, il nous dit la chose suivante. J'avais cru que j'avais réussi à délayer jusqu'à trouver la page, mais non. Bonne saison d'ensemble, mais avec beaucoup de hauts et de bas malgré 4 podiums. Si Perez n'avait pas fait le fou en fin de saison, il serait passé devant Mercedes, place qu'ils auraient méritée. Concernant Perez, futur grand, mais qui peut montrer quelques signes de faiblesse quand il est sous pression, tandis qu'à propos de Kobayashi, il nous dit plus régulier que Perez, j'aimerais qu'il soit là l'année prochaine.
Non, mais on parlait tout à l'heure de Rosso qui peut pas avoir de grandes ambitions, etc. Sauber n'a pas l'ambition de passer parmi les écuries capables de gagner des courses, même si elle a failli en Malaisie. Et ça reste une écurie solide. Une écurie qui, sa création, est jamais sortie du top 8. Au début des années 2000, elle a été même régulièrement dans le top 5 du championnat. Et ici, elle a fait en termes de podium. Et...
Il a bien dit année 2000
Oui, et donc.
D'un autre gage.
Ouais.
C'est quoi
c'est saison.
Ah, merde.
Ah bah c'est sûr, Philippe, si tu surveilles pas les bons mots, on va pas y arriver.
Ah oui, c'est vraiment dommage.
Je surveille, mais tu vois...
Ah bah tu surveilles mal, hein, si je peux me permettre. Je voudrais pas balancer Fab, mais bon...
Oh
je crois qu'on peut tous se balancer les uns les autres, hein, plus
balance.
Oui. Ouais, mais bon.
J'ai dit, comme ils se balancent, on peut leur en donner un de plus, quoi.
Oui.
Visiblement.
En fait, le truc qu'on aurait dû faire, c'est choisir un mot pour chaque. Comme ça, ils se seraient balancés entre eux.
Ah bah on peut le faire maintenant, si tu veux. Parce que vu que, visiblement, chacun a dit un mot qu'il fallait pas,
oui.
Hein, on peut leur en donner un mot chacun. Alors, Shiji, est-ce que tu as un mot pour...
Pas un mot de liaison, un donc ou un et ou...
Non.
Ou donc en icar.
Abandon.
Pour qui?
Je vais dire Ben.
Ben, abandon. Donc Ben, t'as plus le droit de dire abandon. T'as plus le droit de dire progrès, t'as plus le droit de dire saison.
Abandonne, Ben.
Pour Fab, je vais dire le mot effectivement pour Fab.
Oh non, mais ça c'est dégueulasse. Non, mais ça c'est dégueulasse, les gars,
dégueulasse. C'est un peu un mot de liaison.
En effet, j'ai envie de dire.
Et pour Marc.
Ah non, mais en plus, restez dessus. Très bien.
Ah bah oui.
Très bien. Écoutez, très bien.
Pour Gus Gus, qu'est-ce qu'on pourrait mettre
Pense à ce qui reste comme équipe, ça peut aider.
Développement.
Ah oui.
Donc mais si on est bien d'accord, vous avez plus le droit de dire progrès et saison tous les trois. Fab, tu n'as plus le droit de dire effectivement. Ben, tu n'as plus le droit de dire abandon. C'est Ben qui s'en sort bien. Et Marc, tu n'as plus le droit de dire développement. Entendu.
Évidemment, vous pouvez balancer vos petits copains.
Jamais, jamais.
Nous sommes une grande famille.
Eh oui, eh oui.
Et donc nous étions sur Sober. Et qu'est-ce qu'on disait sur Sober?
Que c'était une grande équipe.
Ah. Mais.
Non, mais c'est une écurie, voilà, qui chaque année, tu sais qu'elle va être présente, qu'elle va marquer des points, qu'elle sera jamais complètement larguée, quoi. C'est une équipe sur laquelle on peut compter dans le peloton et.
Un peu à l'image de Williams, c'est une écurie qui sait faire de la F1.
Oui, c'est le genre de pour moi c'est vraiment les en guillemets petites équipes dont on a besoin en Formule 1 parce que c'est des écuries voilà qui permettent à des pilotes de faire leurs preuves sans avoir la pression obligatoirement de gagner de etc. Donc pour moi c'est vraiment des équipes qui font que la F1 est ce qu'elle est aussi.
Le seul bémol c'est un peu sur les ressources qui font que ils ont du mal à mettre à jour la voiture et sur la fin de et donc en fin de d'exercice ça commence à se ressentir. Ça commence à se voir. Donc en fin d'exercice ils ont un peu du mal à tenir la distance par rapport aux autres.
Mais enfin, Perez a gâché quelques occasions aussi sur la fin de l'année. Hein. Oui.
Mais c'est vraiment une écurie de course parce que en qualif ils sont pas été extraordinaires cette saison. Même plus souvent, je crois plus souvent été éliminés en Q2 que passés en Q3. Par contre, en course, c'est là qu'ils font la différence et c'est notamment grâce aux stratégies et à la tenue des pneus que Perez a pu faire des podiums cette saison.
D'ailleurs, c'est bien qu'ils aient réussi à retenir cette qualité de la C30 sur la voiture de cette année.
Ouais.
C'est vraiment une de leurs spécificités et s'ils peuvent encore la maintenir pour l'année prochaine, d'autant plus qu'on sait que les pneus vont s'user encore plus, ils seront peut-être plus exploitables par les écuries, mais qu'ils vont être, ils vont se dégrader encore davantage, donc c'est un point à surveiller pour 2013.
Vous parlez d'une équipe qui était, comment? Oh, c'est dingue, Alzheimer. Oui, tu parlais d'une équipe qui était moins bonne en qualification qu'en course, mais ça a été quand même le cas de beaucoup d'équipes cette année. Parlait de Toro Rosso. Toro Rosso, pour le coup, c'était vraiment l'exemple vraiment paroxystique. Tu vois, t'aurais dû mettre paroxystique parce que.
Non, effectivement.
C'était l'exemple parce que c'est vrai que pour le coup, il sacrifiait complètement la qualification au profit de la course. Mais sinon, non, mais rien d'autre à ajouter. Une très très bonne base de travail. Malheureusement, et on le voit, comme disait Marc, c'est-à-dire que même quand tu as une très bonne base de travail, la progression, les développements sont difficiles à mettre en place.
Il nous cherche la progression, virgule, les développements sont difficiles à mettre en place.
Quand t'as pas le budget. Mais c'est vrai qu'il y a eu des abandons un peu déplorables sur la fin de cette année. Voilà.
Et le pire, c'est qu'il arrive à faire ça tout en disant quelque chose qui a du sens.
Oui.
Et qui est complètement dans le contexte. Bravo.
Mais j'en suis. C'est quand même que Kobayashi n'a pas démérité non plus. Parce qu'en qualification, Perez finit devant 11 à 9, mais en course, c'est 10-10, quoi. Ouais. Donc, dans l'absolu, il y a eu moins de coups d'éclat de Kobayashi, mais dans l'absolu, il n'a pas été mauvais non plus, quoi.
Il en est à combien de dons d'ailleurs, Kobayashi?
Aux dernières nouvelles, il était à 1,2 million, mais je sais plus.
Le compteur monte, le compteur monte.
En dollars.
Mobilisez-vous. Alors moi, j'aurais juste une critique à faire à l'opération de Kobayashi, c'est que le site où il demande à faire des dons, moi j'ai essayé d'y aller, il est exclusivement en japonais. Alors je sais pas s'il y a remédié depuis en mettant une version anglaise, mais voilà, je trouve c'est une bonne intention, c'est une bonne idée qu'il a eu de faire appel à ses fans. Sauf que le truc de Kobayashi, c'est qu'il a pas des fans que au Japon, il a des fans à travers le monde entier. métier et que ça aurait peut-être été bien d'avoir un site vraiment multilangue. Surtout, bon, bah, il n'y a pas non plus grand-chose à dire sur le site, donc faire une version anglaise, une version en français, en allemand, ne serait-ce que pour les fans de Sauveur. Non, mais vraiment faire un truc avec plusieurs langues, ça aurait été peut-être accru le nombre de finances, parce que, enfin, sincèrement, le japonais, enfin, on sait même pas où cliquer pour faire un nom. Ouais,
c'est Sato Kamikaze, il serait allé de son petit bifton.
Et donc l'écurie suivante avec une moyenne de 14,76, c'est l'écurie Lotus. Une note minimale de 12, une note maximale de 16,4. Au classement du SAV, l'écurie a été quatrième avec 320 points. Kimi Räikkönen a terminé quatrième avec 205 points. Premier au Bahreïn et à Abu Dhabi, donc deux victoires. Romain Grosjean, quant à lui, a terminé huitième avec 115 points. Il a terminé deuxième au Canada et en Europe. Au classement officiel, l'écurie est quatrième avec 303 points. Kimi Räikkönen a terminé cette fois-ci troisième avec 207 points, avec une seule victoire cependant, une première place à Abu Dhabi. Romain Grosjean, quant à lui, termine lui aussi huitième, comme dans le classement du SAV, avec 96 points, dont une deuxième place comme meilleur résultat au Canada.
Pour Romain, les bases sont là, le bon sens aussi, il faudra encore développer ses compétences à l'oral avant de pouvoir viser plus haut. Attention à garder son calme avant les interrogations, la concentration est essentielle à la réussite. Pour Axel, on ne l'attendait pas à ce niveau, bravo, Kimi est parmi les premiers de sa classe, mais par contre Romain est bien trop bagarreur. Il devra apprendre à se calmer pour éviter les heures de retenue et les jours d'exclusion afin de mieux se concentrer sur son travail.
Et à de là notre conseiller de classe qui nous dit bonne voiture, surtout en fin de course, mais encore une trop petite équipe pour continuer le développement de la voiture jusqu'à la fin, malgré la victoire de Räikkönen, quatrième place méritée. Concernant Räikkönen, retour fracassant, toujours dans les points, annonce sauf en Chine et de peu au Brésil, avec une victoire mais presque inattendue à Abu Dhabi, a failli perdre sa troisième place au Brésil. Mais c'est quand même génial ce qu'il a fait avec aucune erreur cette saison. Quant à Grosjean, saison mitigée, je crois qu'il a quelque chose avec les têtes à queue dans les virages à gauche.
On te laisse responsable de tes propos, Adelin.
C'est pas trop les virages les problèmes de Grosjean.
C'est les autres voitures.
C'est les freinages, justement.
Il y a un gros potentiel dans cette écurie Lotus. Si on gratte, alors c'est plus l'écurie Renault du temps de Briator, mais c'est quand même... Enfin, il n'y a pas eu de gros recrutement à l'extérieur, donc c'est des gens qui étaient là en 2005, en 2006, quand l'écurie a gagné des championnats. Et donc le fait d'attirer plus de sponsors avec Räikkönen et les sous de Total par rapport à Grosjean a fait que cette année ben ils ont pu rester dans la course beaucoup plus longtemps et qu'ils avaient de meilleurs pilotes que un Senna ou un Heidfeld quoi. Et du coup c'est une bonne surprise qui a un gros potentiel mais qui a quand même eu du mal à transformer ça en résultat. Beaucoup on les a vus capables de gagner, entre en position de gagner comme à Bahreïn ou en Hongrie et pas réussir à le faire de très peu. Il a manqué peu de choses pour que les résultats soient encore meilleurs.
Ouais, moi je vais retenir ça aussi, un beau potentiel, un peu court en développement sur la fin de l'année, même s'ils sont quand même bien rattrapés avec le Co-Honda. Mais voilà, moi je me dis que l'arrivée de l'argent de Coca-Cola via Burn pour 2013, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que je pense que voilà l'équipe a vraiment du potentiel. Räikkönen, bah voilà, il a réussi son retour, je pense qu'il a plus grand chose à prouver. Au contraire de Grosjean qui, s'il est reconduit, va devoir prouver que bah il a mis ses vieux démons derrière lui définitivement et que voilà il arrive à rapide, ça on sait qu'il l'est. Alors il va falloir qu'il montre que il sait réfléchir aussi avant de tenter une manœuvre parfois un peu limite. Et que voilà, il peut être constant aussi en course et ramener des points. Parce que comme on l'a dit, les points, c'est de l'argent aussi. Ouais.
Je rejoins mes deux collègues, une équipe avec beaucoup de potentiel. Je vais m'arrêter plus particulièrement sur le cas de Grosjean, parce que on en avait discuté dans l'émission Fantôme. C'est vrai que sa situation globale sur l'année, disons que mon avis, c'est qu'on en a fait beaucoup pour quelque chose qui était peut-être pas aussi important, parce que on était face à un pilote qui, lorsqu'il a eu sa suspension, n'avait pas eu la moindre sanction précédemment. C'est la sanction, j'entends réprimande. Donc il n'avait pas eu la moindre réprimande, ni la moindre sanction. Donc à qui on a fait porter peut-être une responsabilité un peu grande, qui était celle de du côté fou de certains pilotes cette saison, alors Maldonado lui-même, Grosjean, même si c'était un peu plus contenu à mon sens. Et ce qui m'a dérangé le plus dans dans sa réaction à tout ça, c'est que finalement il s'est lui-même, je pense, persuadé du fait qu'il y avait un problème qui justifiait qu'il fallait tout changer. Et on l'a vu dès le retour à Singapour où il s'est fait marcher dessus. On l'a vu aussi à Abu Dhabi, je crois, où il a été extrêmement prudent dans toutes ses manœuvres, au point d'en être même sous-performant, alors qu'il était capable d'être devant Hülkenberg, je pense.
C'est en Corée.
Ouais,
ça.
C'est en Corée. Pourquoi je confonds les deux circuits? Non, mais voilà. Et puis la situation actuelle, on en parlait un petit peu tout à l'heure, de ne pas reconduire, de ne pas l'avoir, en tout cas de laisser un suspense sur sa reconduction, que je rejoins Ben, je pense elle se fera. Je pense pas que ce soit le meilleur moyen de le mettre dans de bonnes dispositions pour l'année prochaine, parce que ça, enfin voilà, là il sait que maintenant il va être attendu, quoi. Il va être épié, il va être scruté, ça va lui mettre encore plus de pression. Je pense pas que ce soit quelqu'un qui s'en met beaucoup, mais j'ai quand même l'impression que c'est pas quelqu'un qui arrive à forcément bien la gérer quand il en a. Donc je pense que la gestion du cas Grosjean, aussi bien par les instances de la discipline que par Lotus, que même par Grosjean lui-même, n'a pas été bonne, et je pense qu'on est très sévère avec lui, alors qu'il a prouvé de belles choses. Il a effectivement des mauvais côtés, mais après, pour le reste, il me semble être un pilote intéressant.
Donc on passe à une autre écurie, messieurs. Ah non, sur Lotus, on est obligé de, je suis obligé de donner la parole à Shinji. Shinji.
Quoi?
Kimi Raikkonen. Alors.
Bah, 22 sur 20.
22 sur 20.
Non, non.
À la note.
Mais tu sais quoi, même avant sa victoire, j'aurais été extrêmement content de son retour et de son année. Par rapport au podium qu'il a fait. Oui. Voilà, par rapport à ce qu'il a montré dans l'équipe, par rapport voilà, à ses podiums, ses résultats, il a été le point de stabilité de l'équipe, justement, par rapport à Romain. Donc, extrêmement satisfaisant.
Sur la fin de saison.
Bah, c'est-à-dire que sur le début, il était beaucoup plus discret, voire même il faisait des courses très moyennes. Mais il a toujours eu cette stabilité au niveau du résultat.
Oui, il était voilà. Parfois un peu juste en qualif.
Oui.
Mm. Ouais, bon, derrière, ça a été l'assurance tout risque.
Mm.
Au Brésil, il a été transparent au Brésil par exemple. Donc il a pas fait que des bonnes courses.
Mais ce qui est bien, c'est quand il est transparent, il fait un truc pour se faire repérer.
Oui, oui. Attention, quand je dis qu'il est stable, ça veut pas forcément dire qu'il fait une bonne course. C'est que voilà, justement, comme j'ai dit, c'est un point de stabilité par rapport à Grosjean.
Il y avait quand même au début de saison un petit doute sur la capacité véritablement de Lotus à pouvoir s'appuyer sur Raikkonen, ce qu'il a très vite démenti en faisant des bonnes performances et compagnie. Mm. Je pense que Raikkonen a davantage profité en fait du déclin de Grosjean pour reprendre la position qu'il doit occuper, mais ça c'est un peu le problème de Raikkonen, c'est qu'on a l'impression qu'il n'a pas besoin de faire grand chose. C'est pas lui qui agit, c'est davantage l'équipe, un peu par défaut, qui s'appuie sur lui parce que y a personne d'autre finalement.
Ah bah.
Et là, j'ai un peu l'impression que c'est pas trop lui qui s'est imposé comme une force stable, un véritable moyen de s'appuyer au sein de l'équipe, mais que c'est davantage parce qu'il y avait personne d'autre finalement au sein de l'équipe sur qui s'appuyer que lui est devenu le point d'appui.
Un truc qui m'a surpris, mais alors là, c'est vraiment dans l'extra sportif, c'est tous les trucs qu'il a fait pour l'équipe, mais alors je sais pas, est-ce que c'est peut-être parce que Lotus est un cadre qui le permet mieux, enfin le coup des t-shirts là, la vidéo pour souhaiter joyeux anniversaire, joyeux Noël, ça je t'avoue, mais ça m'a étonné.
Mais il a fait que ça?
Ah oui, non mais les autres pilotes ne font pas ça. Et ils ne le faisaient pas avant, c'est pour ça que ça m'étonne.
Donc sur ce, monsieur, on passe à une autre écurie, aux trois dernières écuries. Enfin aux trois premières écuries.
Oui.
Oh non, les trois dernières, moi je les fais plus.
Toi, t'es arrivé à ton summum, c'est bon.
Oh, j'en ai marre.
Et donc, avec une moyenne de 15,02, une note la plus basse de 13, une note la plus haute de 17, nous avons l'écurie McLaren-Mercedes. Au classement du SAV, l'écurie est deuxième. Petit changement, hein, parce qu'on s'était trompé dans les calculs lors du dernier SAV. Ils sont deuxième à égalité de points avec Ferrari, 413 points. Mais ils ont plus de victoires que Ferrari au classement du SAV cette saison. Donc, ils sont deuxième.
Je crois.
Et donc, Lewis Hamilton est troisième du classement du SAV avec 236 points. Il a trois victoires à son actif. Il a été premier au Canada, premier en Hongrie et premier aux États-Unis. Jenson Button est quant à lui cinquième avec 177 points. Il a deux victoires en Australie et en Belgique. Au classement officiel, l'écurie est troisième avec 378 points. Lewis Hamilton est quatrième au classement pilote avec 190 points. Il a quatre victoires au Canada, en Hongrie, en Italie et aux États-Unis. Quant à Jenson Button, il a trois victoires en Australie, en Belgique et au Brésil qui lui permettent d'occuper la cinquième place finale avec 188 points. C'est serré en fait au classement final entre les deux pilotes McLaren. Ils sont séparés que de 2 points.
Et même si tu prends le total de points qu'ils ont marqué sur les 3 dernières années chacun, je pense que l'écart est très très faible aussi. Hein.
Ouais.
J'ai plus les chiffres, mais Alors que un devait dominer largement l'autre. On est loin du compte. Même si Hamilton a marqué plus de points que Button, je pense. Mais franchement, la différence n'est pas énorme.
Du côté des rédacteurs, Shinji, des commentaires.
Pour Quentin, Button, le passage à la classe supérieure sera difficile. Hamilton devrait être champion 2012. Oh. Chez Clément, viser mieux cette saison, des erreurs de fiabilité inacceptables pour une équipe avec un tel potentiel. Devra faire mieux en 2013 malgré un remaniement.
Du côté du délégué de classe Adelin, voiture très performante toute l'année, mais avec des grands prix sans, comme en Espagne ou en Corée, on ne sait pas pourquoi, et aussi quelques failles dans la fiabilité et des arrêts au stand, fini troisième au classement, comme quoi la fiabilité a été cruciale cette année.
Aussi en Espagne, on sait pourquoi ça a été un grand prix sans quand même.
Oui, mais Button, qui était à la ramasse, enfin, ouais. Il est éliminé en Q2, je crois.
Mais c'est ça, il y a eu des hauts et des bas toute l'année chez McLaren. Ouais. Il y a eu des moments où on savait vraiment pas, je pense que même les pilotes, peut-être plus Button qu'Hamilton, ne savaient vraiment plus ce qu'il fallait faire avec la voiture.
Et, bah, Button, il la comprenait même plus, alors.
Oui.
Clairement, Hamilton, champion 2012, on va peut-être pas exagérer, mais clairement, il aurait dû être mes candidats au titre jusqu'à dans les dernières.
McLaren, champion de la dentille, en fait.
Ouais, mais c'est ça, cette année, alors que, franchement, après Melbourne, on se disait, McLaren, voilà, ils vont nous faire une Red Bull, quoi.
Ouais, mais c'est ça, le truc, il faut jamais, en fait, au final, la leçon de tout ça, c'est qu'il faut jamais tirer des plans sur la comète des essais hivernaux, parce que ça veut absolument rien dire.
Ni même des débuts de saison, parce qu'on voit McLaren, finalement, qui aurait pu penser en début de saison que McLaren serait hors course, à la fois au championnat pilote et constructeur, deux courses avant la fin de saison.
Et que quoi. Ferrari, enfin, voilà.
Voilà, enfin, c'est...
Et que Mercedes ne cachait pas son jeu.
Non mais ça, on aurait pu le dire facilement.
Non mais voilà, mais c'est, enfin, on a trouvé une écurie McLaren qui était un peu à côté de ses pompes en fait. Parce que d'habitude McLaren c'est l'image un peu d'une écurie qui est sérieuse, qui est très technologique, qui travaille beaucoup en sens, qui innove, etc. Là des choses de base comme une boîte de vitesse fiable ou des arrêts au stand carré, ça a pas été fait. Donc à partir de là, c'est sûr que ça allait être difficile pour eux de jouer un rôle dans les courses au titre. Alors que pourtant, le principal défaut de 2011, qui était un Hamilton un peu foufou, d'ailleurs je pense qu'on peut l'en féliciter, c'est qu'il a fait un gros travail pour bien se remettre en selle après la saison 2011 qu'il a vécu. Ce défaut-là avait été corrigé et c'est McLaren qui a fait que la saison était pas au niveau de leurs espérances. Ils peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes.
C'est vrai qu'Hamilton,
même sincèrement,
était impeccable, hein.
Moi, sincèrement, Hamilton, de toutes ces saisons en Formule 1, s'il y en a bien une pour moi où il mérite d'être champion du monde, et c'est là que je rejoins Quentin, c'est celle-ci. Enfin, il a strictement rien à se reprocher cette saison.
Son équipe lui a fait perdre beaucoup de points. Hein.
Oui, voilà, clairement. Enfin, je sais pas combien de points il est du vainqueur. Il est à 190 points, Cosmon.
Il y a plus de 80 points.
Il y a plus de 80 points quand on compte les abandons qu'il a alors qu'il est en tête de course, quand on compte les petits points qui se perdent par-ci par-là à cause des problèmes de pneus. Enfin, c'est vrai qu'avec Desi, on offrait le monde, bien mais quand même, il a cette année, moi, il m'a impressionné. Enfin, il n'y a rien à dire sur lui cette année, à part peut-être en comportement où responsable de certains problèmes en externe, mais en dehors de ça.
En 2011, c'était sur la piste, les accrochages avec Maldonado, etc. Cette année, ça a été beaucoup mieux. À part peut-être, le seul petit truc qu'on peut lui reprocher, c'est encore avec Maldonado, c'est à Valence, où il a peut-être un peu plus trop résisté de raison, mais là encore, Maldonado, il faut fautif aussi. Mais à part ça, c'est des écarts de comportement qui traduisaient, je pense, le divorce qui était en train de se jouer avec McLaren et qui est d'ailleurs qui commence à regretter. On l'a senti sur la fin de saison parce que ça commençait à remarcher une fois que la McLaren est devenue plus fiable. Voilà quoi.
Ouais, mais en piste, même après l'annonce de son départ pour Mercedes, il a été impeccable. Quand on n'a rien à lui reprocher sur les résultats en piste par rapport à McLaren. Donc il s'est vraiment. C'est vrai qu'il y a eu quelques écarts de tweets, voilà, mais à part ça, il n'y a pas. Non, il devait clairement faire partie des candidats encore pour le titre au Brésil.
Et toi, Fab, qu'en penses-tu?
Je vais être sévère. Je vais être sévère sur McLaren parce que effectivement, à côté de ses pompes, oui, je crois que c'est le bon mot parce que là, dire t'as un pilote qui est vraiment à un niveau
un excellent niveau. Enfin, je veux dire, si t'as 3 ou 4 pilotes à ressortir particulièrement de cette saison, il en fait partie, ça c'est clair et net. Et mais finalement, on lui donne un outil et puis des arrêts au stand surtout. Enfin, ça a été vraiment le sur toute la saison, quoi. Même sur la fin, je veux dire, ils avaient beau se targuer qu'ils avaient le record de l'arrêt au stand, bon, ils ont encore fait des boulettes. Il me semble qu'à Interlagos, je crois que c'est sur Button, il y a une petite erreur encore. Enfin, ouais. C'est des choses qu'on n'a pas vues chez d'autres écuries. Et je veux dire, rien que ça, ça a fait perdre. L'exemple typique, c'est Valence, puisque c'était sous safety car. Mais ça a fait perdre des points. Et puis voilà, tu te retrouves pas dans la même position pour 1 ou 2 secondes de retard à l'allumage. Tu te retrouves pas au même endroit et c'est pas forcément. Ça rend pas les choses plus faciles. Puis globalement, c'est vrai qu'un défaut de fiabilité assez étonnant, mais bon, en même temps il y a d'autres écuries qui ont eu des problèmes de fiabilité, mais
pas dans les habitudes de McLaren.
C'est ça, on avait connu ça il y a très longtemps, une petite dizaine d'années chez McLaren, mais c'est vrai que depuis c'était la série est encore en cours ou elle s'est arrêtée, mais ils étaient dans les points pendant combien de courses, 56, quelque chose comme
56.
Ça
56.
Ouais, voilà. Donc bon, déjà ça traduisait, mais là cette année, que reprocher à Hamilton, qui même avec une voiture qui avait des hauts et des bas parvenait toujours à s'en tirer à bon compte. Button justement a plus subi lui sa voiture, et ce qui me fait un peu douter de ses capacités à être un leader naturel pour la saison prochaine chez McLaren, parce qu'on l'a senti effectivement résigné à ce moment-là de la saison, quand il y a eu le creux à partir de quelle course d'ailleurs.
Bah, dès l'Espagne de toute façon.
Globalement il y a eu un creux.
Le début de saison c'est sa victoire, il y a une deuxième place et le reste c'était plus dur en termes de résultats.
Ouais, voilà.
Ouais, puis surtout pour 2013, McLaren va se retrouver avec deux pilotes qui sont pas forcément des spécialistes de l'exercice de la qualification. Là où un Hamilton pouvait te sortir un tour que parfois même lui savait pas trop d'où il le sortait, mais ici avec Button et Perez.
Ouais, mais Perez, est-ce que c'est parce que c'était sa voiture ou est-ce que c'était parce que c'était lui? Je pense que c'est plus à cause de sa voiture qu'il n'arrivait pas à bien se qualifier.
Bah, globalement, enfin ici au niveau des par rapport à Kobayashi, ça reste assez équilibré, mais je pense que si tu fais la position moyenne des deux, Kobayashi est devant Perez, donc je pense que faudra voir l'année prochaine, ça sera un détail l'année prochaine, voir si Button peut se poser en leader naturel de l'équipe, parce qu'effectivement quand la McLaren semblait un peu à la rue, il semblait tout aussi largué, et puis Perez qui débarque dans une grande équipe, faudra voir, ce sera un des intérêts l'an prochain.
Bah, comme on parle de Perez, messieurs, passons à l'écurie suivante. C'est la transition de merde.
Oui.
J'assume parfaitement cette transition.
Là, tout de suite, je me dis, mais suivante, c'est quoi le rapport?
Mais non, parce que l'écurie suivante, c'est l'autre écurie où aurait pu aller Perez.
Oui.
S'il avait été un peu plus expérimenté et prêt à subir la pression, c'est l'écurie Ferrari qui a une moyenne de 16,06, une note minimale de 12, une note maximale de 18. Au classement du SAV, l'écurie est troisième avec 413 points comme McLaren, mais moins de victoires. Fernando Alonso est premier du classement du SAV de la F1 avec une victoire en Europe, en Allemagne, en Inde et au Brésil.
Ah bon ?
On cherche toujours à savoir pourquoi.
Brésil ?
Oui, au Brésil.
Ah, t'as pas écouté les dernières émissions ?
Ah bah, je suis un peu en retard.
Donc oui, on te l'annonce, hein, Alonso a gagné le SAV au Brésil. Quant à Felipe Massa, il est 7ème avec 120 points, une meilleure place, une 2ème place en Corée du Sud. Au classement officiel, la Scuderia est 2ème avec 400 points, tout rond. Fernando Alonso est 2ème au championnat avec 278 points. Il a été premier en Malaisie, en Europe et en Allemagne, tandis que du côté de Felipe Massa, on est 7ème au championnat pilote avec 122 points, donc seulement 2 points de plus que chez nous. Et son meilleur résultat, c'est une 2ème place, son premier podium depuis 2010 au Japon.
Pour Mathieu, l'élève Ferrari s'est montré particulièrement peu à propos au cours de cette année scolaire. Elle a commencé par fournir des instruments très en deçà de ses compétences et de son budget. De plus, elle a joué l'émotion avec un de ses protégés, Felipe Massa, en remettant en doute son futur en son sein, ce qui n'a fait que le déstabiliser. À partir du moment où il en a su davantage, sa performance s'est nettement élevée. Pour Clément, après un mauvais début de saison, un bon redressement d'ensemble. Un pilote, Alonso, qui sait tirer son équipe vers le haut, et un deuxième, Massa, qui sait jouer pour l'équipe.
Du côté du délégué de classe Adelin, nous avons voiture moyenne, mais celle qui a le plus progressé, je pense. Concernant Alonso, c'est la saison référence pour lui, aucune erreur. Et concernant Massa, il a eu du mal à se réveiller en début de saison, mais quand il est là, il peut être très performant. Il peut être plus performant qu'Alonso, mais c'est le deuxième pilote. Dommage parfois, mais d'autres fois, ça peut le mettre en valeur. Ce rôle qu'il a super bien rempli depuis, je vais dire, Singapour.
Ouais, bah ça c'est l'exemple type qu'un pilote serein, c'est un pilote qui peut faire des bonnes performances. Voilà, ouais. On parlait de Grosjean tout à l'heure, bah ça c'est ça. À partir du moment où il a commencé à arrêter de se poser des tas de questions sur son avenir et qu'il a été annoncé officiellement qu'il serait encore là en 2013, on a retrouvé à Massa performant, qui jouait le jeu de son équipe, qui était là pour soutenir Alonso. De toute façon, à ce moment-là, il n'y avait plus grand-chose d'autre à faire pour lui. C'était en des Melbourne qu'il fallait performer pour pouvoir espérer plus. Et voilà, et de l'autre côté, Alonso, pas grand-chose à lui reprocher. Je veux dire, il n'a pas une petite erreur au Japon où bon, il va un peu tatouiller Raikkonen. Mais bon, sur une saison d'un Grand Prix, on va pas aller chercher la petite bête.
Tatouiller, ça c'est dans le dictionnaire, ça.
Je sais pas.
Ça doit être faut comme, lui interdire ce mot.
C'est comme ça son oignon. Mais non, mais voilà, sinon, voilà, Alonso, il a tiré l'oignon. En fait.
D'ailleurs, il me semble que tu as 10 saisons.
Non, j'ai dit c'est championnat.
Il a dit oignon.
Voilà, c'est ça.
Moi, j'ai entendu saison et t'as une très mauvaise défense, donc on va vous redonner un mot, messieurs. Le mot, c'est...
Un mot chacun ou un mot...
Parallax.
Non, c'est un mot... Arrête, tu dis, arrête.
Je crois que Grosjean a des problèmes de parallax.
Là, c'est un mot pour tous, et le mot pour tous, ça va être...
Mustélidé. Champion.
Ça va être champion.
Va pour Mustélidé.
Non, champion.
Champion.
Ça c'est très salaud.
Ça c'est juste avant Red Bull.
Oui.
Donc nous en étions à Ferrari, messieurs.
C'est le renversement de la saison. Enfin, il y a eu du gros travail en début d'année.
Pourquoi?
Pour
du travail de quoi?
Du gros travail de mise à jour de la voiture. Pour
pour mettre à la puissance. Là t'es pas très clair.
De l'apport de nouveautés sur la voiture en termes de catégorie
d'amélioration
de carrosserie, d'amélioration et le travail sur les suspensions à l'avant pour
le développement.
Exactement, tu me l'enlèves, je trouvais plus ce mot. Il y a eu du gros travail, c'est le renversement le plus flagrant. Alors ça a un peu plafonné en qualif, mais en course la voiture était quasiment toujours là à partir de Barcelone pour elle était au rendez-vous quoi. Et ça se voit dans les résultats. Alonso fait une douzaine de podiums, non, c'est ça? 12 ou 13.
Ouais, ouais.
Donc oui c'est gros boulot de la part de Ferrari. Et gros boulot des deux pilotes, Alonso toute la saison et Massa une fois qu'il a été effectivement plus serein, plus détendu par rapport à son avenir et surtout à ses propres capacités.
Je crois que faut vraiment souligner le très très bon travail de Ferrari parce qu'on a tendance à porter au nu Alonso, ce qui est vrai aussi, hein, c'est un des meilleurs pilotes de l'année. Mais Ferrari part d'assez bas, alors pas trop bas non plus, part d'assez bas et a quand même une sacrée progression. Pour le coup, je rejoins Adelin qui disait ça tout à l'heure et je trouve que à survaloriser le travail d'Alonso, on en dévalorise celui de Ferrari qui a quand même été capable de fournir une voiture relativement elle-même capable de jouer le titre. Parce que faut quand même signaler que sur la fin de saison, c'est que des podiums, il me semble. Je crois pas me tromper. Et c'est un peu dévaloriser le travail de Massa, qui effectivement en deuxième partie d'année a fourni une grosse prestation, ne serait-ce qu'en termes de développement de la voiture.
Ouais, la Ferrari n'a pas toujours été la poubelle qu'on nous a vendue non plus. Hein. Il y a eu des moments où la Ferrari était quand même plus que correcte,
oui.
Sans aller chercher les meilleures monoplaces de la grille qui pourront être la Red Bull et la McLaren. Alors la Ferrari sur certaines courses était peut-être même derrière la Lotus, mais ça n'a pas non plus toujours été le camion
de 91.
Mais non, mais voilà, Alonso a souvent répété, on n'a pas la meilleure voiture là. Il n'a pas non plus toujours eu une voiture.
Ça, c'était agaçant. Ça, c'était atroce, agaçant en fin de saison.
Conduire, donc, c'est vrai qu'en début de saison, la voiture était pas bonne, mais sur l'ensemble, ils ont quand même fait évoluer la voiture et sur certaines courses, ça a été loin d'être mauvaise, quoi.
Non, puis c'est pareil, il faut pas oublier non plus que c'est pas Alonso qui fait les arrêts au stand, c'est pas Alonso qui fait la vérification des pièces pour la fiabilité. Voilà, enfin, Alonso, il a aussi été placé par Ferrari dans un truc où faut pas oublier, c'est que si Alonso il est performant aussi, c'est que entre guillemets, il n'a à s'occuper que de son pilotage. On lui demande pas de s'occuper de son coéquipier puisque le coéquipier est un numéro 2 et la position est clairement établie. Il peut compter sur un matériel fiable, il a pas forcément besoin de s'occuper des arrêts au stand et compagnie parce que là, il n'y a rien à dire. Là où d'autres auraient eu des choses à redire, on peut penser à Hamilton chez McLaren. Donc, oui, il a magnifié une voiture qui n'était pas mauvaise, mais il a magnifié une voiture aussi parce qu'il avait, entre guillemets, que ça à faire cette saison. Voilà, c'est aussi tout le travail qu'il a fait en amont, où là, il a vraiment gueulé les deux premières saisons, où il a poussé, il a tapé sur la table quand il fallait, et il a payé les fruits cette année en ayant une équipe qui était au garde-à-vous et une équipe qui tournait bien, qui s'était remise en cause sur certains aspects. Bon, bah, là, il faut encore qu'il continue de taper sur la performance, mais si c'est là l'année prochaine, moi c'est une équipe qui, moi je pense, peut faire très très mal l'année prochaine.
Ouais, c'est vrai que c'est en plus Massa continue sur sa lancée de 2012, il sera au rendez-vous pour prendre des points aux adversaires. Donc,
Par contre, alors il y a des sources qui disent que pour 2013, Ferrari recommencerait sur une voiture 100% neuve. Oui. C'est déjà le cas cette année.
Parce qu'en fait, moi ce que j'ai compris sur les sites italiens où j'ai lu cette information-là, c'est qu'en fait, cette année, la plupart des innovations qu'ils ont apportées et qui sont souvent pompées sur des concepts déjà utilisés par McLaren ou par Red Bull, n'étaient pas adaptées à la base. C'est-à-dire que tout simplement, la voiture pouvait les accepter, mais leur rendement n'était pas maximal. Donc l'objectif de Ferrari, c'est de repartir sur une base qui s'adaptera davantage à tout ce qui a été testé cette année. Donc ils espèrent encore pouvoir faire un pas en avant grâce à une base qui acceptera davantage les innovations de 2012.
Ouais, mieux les incorporer dans le concept, quoi.
Et donc, messieurs, on passe à la dernière écurie. L'écurie qui est champion du monde.
Non, enfin, mais allons, on s'en fiche. On s'en fiche.
Elle a une moyenne de 16,91. La note la plus basse, c'est 16. La note la plus haute, c'est 19. On se croirait dans Demande qu'à en rire.
Quand dis-je Ben Guigui?
Au classement du SAV, l'écurie est première au championnat constructeur avec 414 points. Un point devant Ferrari et McLaren. C'est juste énorme. Sébastien Vettel est deuxième au classement pilote avec 272 points. Il a 3 victoires à Singapour, au Japon et en Corée du Sud. Marc Weber est sixième avec 142 points. Il a terminé premier à Monaco et en Grande-Bretagne. Du côté du classement officiel de la Formule 1, l'écurie est championne du monde avec 460 points. Sébastien Vettel est premier avec 281 points, donc un tout petit peu plus qu'au classement du SAV, et 4 victoires à Bahreïn, à Singapour, au Japon, en Corée du Sud et en Italie. Donc non, même pas, je dis pas 4 victoires, c'est 5 victoires. Et enfin, Marc Weber est 6e au classement, comme dans le classement du SAV, avec cette fois-ci 179 points et 2 victoires, une première place à Monaco et une première place en Grande-Bretagne.
Pour Mathieu, Red Bull a été un élève très appliquée tout au long de la saison. Elle a su se concentrer sur ce qui faisait la différence, ce qui s'est concrétisé sur la fin de l'année scolaire. Elle est et reste clairement le meilleur de la classe. Il sera dur d'aller la battre l'an prochain. Pour Quentin, Weber, il serait peut-être temps de passer à autre chose, tandis que Vettel, eh bien, avec son titre, tout est dit.
Concernant notre délégué de classe Adelin, il nous dit voiture assez performante toute l'année, surtout à partir de Singapour avec le double DRS, mais avec un manque de fiabilité. Concernant Vettel, que dire de plus que magnifique saison, certes pas celle de référence je pense, mais quand même celle où il a dû bien batailler. Et quant à Weber, superbe saison dans l'ensemble, il a bien joué son rôle de coéquipier, toujours performant et fiable.
Enfin au Brésil, je dirais pas qu'il a forcément super bien joué son rôle d'équipier pour le coup. Hein.
Oui, il a fait un tête à queue, il a laissé passer Vettel. C'est comme ça qu'on fait sur Red Bull.
Après, et puis il était devant au final. Donc en cas de souci, si vraiment Vettel était à la perdition sur la fin, il pouvait carrément s'arrêter pour que Vettel ait une place en moins.
Ça m'aurait choqué. Le mec pas crédible.
Et c'est vrai qu'elle s'est aussi un peu cherchée hein, en début d'année. On a eu la pression que c'est vrai que le double les diffuseurs soufflés, c'est Red Bull que ça visait en premier. Donc c'est normal que ce soit cette écurie-là qui ait eu le plus, qui ait perdu le plus en termes de performance. Mais bon, on a vu que voilà, à partir de Singapour, on a eu l'impression d'être revenu en 2011 avec une voiture qui était performante, mais qui effectivement manquait un peu de fiabilité. Voilà, fin de saison, Vettel a été à Abu Dhabi et à Interlagos, il a montré qu'il pouvait aussi batailler et remonter dans le peloton, et qu'il n'avait pas forcément besoin de partir tout devant pour faire des beaux résultats.
D'ailleurs, moi, je trouve que beaucoup font un mauvais procès à Vettel par rapport au fait qu'il ait la meilleure voiture, tout ça. Quand on reprend le déroulé de la saison, il fait une très bonne saison. Jusque, disons, Valencia, il a pas eu la meilleure voiture parce que les échappements étaient pas au niveau escompté. Et pourtant, jusqu'à Valencia, il gagne une course, il fait quelques podiums. Il est pas ridicule. Il y a beaucoup de courses où il doit remonter, comme à Barcelone où il a une pénalité. Et en fin de course, il est parmi ceux qui remontent dans la hiérarchie plutôt que de descendre. Et Monaco aussi, parce qu'ils font, il me semble, si je me souviens bien, ils font un pari en Q3 à Monaco de pas rouler, et il finit quatrième, alors qu'on sait bien que Monaco, pour dépasser, voilà, c'est loin d'être l'optimal. Du coup, moi, je trouve qu'on fait un faux procès à Vettel à dire qu'il gagne que quand il a la meilleure voiture, parce qu'il a gagné à Bahreïn, il avait pas la meilleure voiture, il avait une voiture qui était beaucoup plus stable qu'en début de saison, parce que ils avaient pris ils étaient un peu revenus en arrière par rapport aux échappements.
On se rappelle quand même qu'à Bahreïn, la voiture avait des innovations qui ont ensuite été les fameuses petites encoches, les fameux petits trous,
oui.
Qui ont ensuite été interdits.
Non, ça n'a pas été interdit.
C'est devenu des encoches.
Pardon, oui, si, les petits voilà. Trous, oui, je vois, oui. Si. On parlait pas de la même chose. Oui, si.
Oui.
Ouais, enfin, ouais, oui, il y a eu plein de choses. Il y a eu ça, il y a eu les freins, les trous dans les freins, dans le refroidissement des freins.
Oui,
il y avait
ouais.
Les copes et des trous dans,
par la jante.
Dans le moyeu et qui ont été interdits. Il y a eu les tests de flexibilité qui ont encore été revus tout au long de la saison. Ouais, ils ont eu beaucoup de bâtons dans les roues et au final, ils ont bien relevé le défi et ils sont revenus en position de 2011 à la fin de vers Singapour effectivement.
De toute façon, c'était sa saison la plus dure.
Oui.
Mais tu gagnes pas en Formule 1 sans avoir une bonne voiture. Je veux dire, un très bon pilote, même Alonso dans une vraie poubelle, il gagne pas.
Non, mais aucun.
Donc forcément.
Aucun pilote n'est champion du monde sur une mauvaise voiture.
Mais oui, mais c'est ça.
C'est.
Oui. Tout à l'heure, je mettais en avant que la Ferrari n'était pas aussi si mauvaise que ce qu'on a bien voulu nous faire croire par moment. Voilà. Donc oui, la Red Bull a dominé. C'est vrai qu'en fin d'année, Vettel a profité du regain de forme de sa voiture et deux petits pépins d'Alonso. Mais au final, ça joue à 3 points et ça pouvait balancer dans un sens comme dans l'autre. Donc, dans les deux cas, moi personnellement, je suis plus content que ce soit Vettel qu'Alonso, mais dans un cas comme dans l'autre, aucun des deux n'aurait volé son titre.
Pour Vettel, le regain de forme de la Red Bull, il est qu'en qualification, si on regarde bien. C'est l'histoire du double DRS qui fait qu'en qualification, ça lui a permis de partir à chaque fois quasiment en pole position et de faire ce qu'il fait faire le mieux, c'est-à-dire contrôler en course et gagner, quoi. À part ça, en course, la Red Bull n'a jamais été impressionnante au point de terminer à 20 ou 30 secondes devant les autres. C'est juste que le double DRS a permis d'être systématiquement en pole ou en bonne position, pas loin de Weber, et de faire ce qui fait faire le mieux. Ouais, quant à Weber,
ouais. Mais il a bien débuté. J'ai envie de dire que quand la voiture semblait un peu plus délicate à gérer avec les pneus, etc., on avait l'impression qu'il s'en sortait mieux que Vettel. L'écart entre les deux était pas exceptionnel, mais voilà, Weber était un peu mieux. Et puis, une fois qu'il a re-signé après Silverstone, on l'a plus vu, quoi.
Ah, et toi, Gus, Marc Weber?
J'en peux plus, moi, en fait. Ouais. Non, mais, enfin, on lui donne une des deux meilleures voitures et il fait de bons résultats à Monaco et à Silverstone.
Ce qui prouve sa valeur.
Du coup, après Silverstone, il re-signe. Et puis après, plus rien. Enfin, c'est très étrange. Enfin.
Ouais, ce n'est pas si étrange que ça.
Non, mais c'est pas
que. La question, c'est est-ce que ça vient de Weber ou est-ce que ça vient de Red Bull?
Non, mais moi, j'ai aucun soutien.
Est-ce que c'est lui
mais...
qui rentre dans un confort ou est-ce que c'est Weber qui a négocié dans son contrat le fait de.
Moi, je pense que.
Trop d'ombre à Vettel.
Ouais, je pense qu'une fois qu'il a. Une fois qu'il dit, voilà, j'ai fait mon job, j'ai mes deux petites victoires, je suis content, j'ai re-signé, bah voilà, bah maintenant, c'est bon. Mon contrat est rempli. Enfin, je sais pas, il y a une espèce de facilité et j'aime pas ça, moi. J'aime pas
du tout. Mais de toute façon, on est.
Très bien qu'il peut pas jouer le titre par rapport à Vettel. il sait très bien qu'on le laissera pas. Donc, je pense que aussi, voilà.
Ça, ça reste à voir.
Non, mais on est loin de 2010 dans son approche de l'écurie Red Bull, dans son approche de la compétition. Parce que en 2010, pourquoi il y a ça? C'est parce que lui se dit, j'ai la voiture pour, je peux faire quelque chose. C'était vrai qu'il pouvait faire quelque chose jusqu'à la Corée. Mais là, enfin, ça a commencé l'année dernière. Il s'est mis dans la position du deuxième pilote.
Puis l'écart
a
complètement grandi. En 2010, il était face à un pilote qui avait gagné des victoires, mais c'est tout. Là maintenant, il a un triple champion du monde à côté de lui.
Là où on a l'impression que Massa est un peu victime finalement de sa situation et qu'il s'est un peu résigné, on a l'impression que Weber lui a un peu plus de recul et que du coup il se dit voilà, je suis dans cette situation là, je vais en tirer avantage, et que c'est davantage lui qui a entre guillemets l'intelligence de se dire bon, je vais jouer le bon soldat, je vais tirer ce que je peux tirer de l'équipe et compagnie. Lui finalement il a pas eu le problème psychologique de Massa qui s'est un peu retrouvé à se dire merde, je pouvais être champion du monde et là je suis numéro 2.
Ah ouais,
lui Weber, c'est lui qui s'est dit, il a juste bougé le bouton en disant voilà, j'ai raté du coup en 2010. Bon, maintenant c'est terminé. De toute façon, chez Red Bull, je pouvais déjà pas en 2010, c'était difficile. Bon, là, cette année, il est champion du monde. Bon, jamais j'aurais raison, jamais je pourrais me battre, sauf vraiment catastrophe de la part de Vettel. Donc, bah voilà, je me mets en poste numéro 2 et je prends ce que j'ai à prendre. Et finalement, c'est peut-être le raisonnement le plus intelligent, quoi.
Mmh.
Et donc, cela clôt le conseil de classe, messieurs.
Ouais.
Et cela clôt la saison 2012. C'est le dernier match, je pense, on en a fait une bonne vingtaine.
Je crois qu'il y avait
20 émissions Grand Prix, 18 mag et deux émissions spéciales. Deux émissions.
Ça allait. Fameuse 80 heures.
Donc, on va en profiter d'abord pour vous remercier tous, chers auditeurs, de votre participation au SAV, de nous écouter, de commenter nos émissions, mais aussi de commenter
de voter,
sur
Facebook, tout ça.
De voter, de répondre aux sondages. Merci de nous écouter tout simplement et de vous amuser avec nous. Merci ensuite à toute la rédaction de FanF1, voilà, dans son ensemble, pour le travail qu'ils font tout au long de l'année. Et plus particulièrement, et ça c'est important, plus particulièrement, merci à vous, messieurs les chroniqueurs, et on inclut dans le lot Steph Core parce que vous avez accepté l'année dernière quand on vous a contacté en vous disant voilà les gars, on va faire une émission hebdomadaire, on aimerait des chroniqueurs. On vous a dit voilà, ça va vous engager à être davantage actif, à participer à plusieurs émissions, à préparer des choses, et voilà, vous vous êtes engagé sur le truc, vous en avez fait confiance, vous êtes embarqué dans le truc, et si cette saison 2012 est un succès, c'est un succès qui vous est en partie imputable. Donc voilà, merci à vous et merci à toi Shinji.
Et merci à toi Dino.
Voilà.
Et merci à vous de votre confiance.
Parce voilà, que, exactement.
Ouais, donner un petit peu quelques clés à d'autres, c'est pas aisé.
Et donc, bon, alors, on va, bien évidemment, qu'on corte la proposition. Théoriquement, si vous avez été précipité, vous avez déjà vu la réponse. We are glad to offer you that cadeau, Mister le vainqueur.
Ouais.
Parce que, en fait, on enregistre après. Mais on connaît déjà le cadeau. Donc, on sait déjà ce que tu as gagné.
C'est déjà bien.
You are lucky. Et donc, c'est juste ce que je propose, c'est de laisser nos auditeurs, nos chroniqueurs clore cette saison.
Oui.
Parce que je crois qu'ils ont quelque chose à te dire.
La saison n'est pas complètement terminée.
C'est le
one more thing de la keynote.
Wow.
Bah, ça avait été plutôt un fiasco dans la première version de l'émission. Alors.
Oui, voilà, c'est l'une des choses qui fait qu'on a se dit, on va en faire une deuxième.
Non, c'est la raison principale, il faut dire.
Oui, c'est vrai.
Dans les prochains jours, prochaines semaines, on va mettre en place comme de coutume en chaque fin de saison les SAV d'or. Donc on va vous proposer des catégories un petit peu humoristiques et de voter pour la personne ou l'écurie ou peu importe qui correspond le mieux à l'énoncé de la catégorie. Et donc on vous mettra ça à disposition d'ici quelques jours. Hein, d'ici une ou deux semaines. après, vous aurez... Tu choisiras au montage, Dino.
vendredi prochain.
Voilà, vous aurez quelques jours pour voter et on vous mettra à disposition une petite cérémonie avec les résultats de vos votes.
Il faut dire que nous ne savons rien, nous, donc on ne sait pas du tout les catégories. On va animer,
donc,
mais on ne sait pas du tout.
Donc pour l'instant, on n'a rien préparé puisqu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans, donc.
Non, et puis sinon, allez, le passage habituel, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, sur Twitter avec le hashtag SAVF1, sur Facebook évidemment, sur FanF1 avec toute la rédaction.
Les gentils animateurs sur Facebook, où les gentils animateurs n'en branlent pas une.
Et puis voilà, bah après, que dire, ça a été une saison...
Sur iTunes.
Ouais, sur iTunes, évidemment. Magnifique.
Sur Podcast France. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous y mettre 5 étoiles, car le SAV de la F1...
C'est le podcast préféré des Mustélidés.
Ah, c'est plus vendeur, en fait.
Ouais, pour 2013, faudra y penser. Ouais.
Mais c'est aussi...
La famille.
Et pour finir...
Le rite des podcasts.
Voilà, voilà.
Ah, et puis surtout, on va donner rendez-vous à tous nos auditeurs, tous nos lecteurs l'année prochaine pour de nouvelles folles aventures dans le SAV avec oui, peut-être des surprises. Mais on ne vous folle. En dit pas plus.
Donc, messieurs, au revoir.
Au revoir.
Ah bah non, là, pour le coup, on n'a plus envie.
On est nul pour... Non, mais sincèrement, le SAV est nul pour terminer. Donc, voilà. Ce qu'on vous propose, c'est en fait... voilà.